On va reprendre si vous voulez, parce que je pense que vous êtes aussi certains de la route à faire après, donc ils vont me dire, ah, on va partir. Donc on reprend. Donc merci beaucoup à Claire Hubert déjà de vous accueillir avec cette tisane. Voilà, alors on va voir les effets, ce que va vous donner de l'énergie. On aurait dû faire la salle en deux, énergie digestive. Voilà. Donc j'ai demandé à Claire Hubert donc, de venir nous présenter son métier et puis toutes ses activités. Donc elle a une grosse demi-heure, on va dire, avant d'enchaîner. Donc on va commencer.
Bonjour à tous, merci. Donc, je m'appelle Claire Hubert, je suis gérante de l'herboristerie du Figuier à Poitiers. Et donc, je vais vous présenter. Alors, je vais y arriver. Ça commence bien. Ça ne marche pas. Alors, je vais faire comme ça. Non. Ah, voilà. Donc je vais rapidement me présenter mon parcours, présenter mon activité au sein de l'herboristerie et puis vous parler un peu plus des tisanes parce que c'est le cœur du métier et notamment les deux tisanes que vous venez de déguster. Et puis après ça se terminera par un temps d'échange si vous avez des questions. Donc en fait mon parcours, il faut savoir que je ne suis pas herboriste puisque le diplôme a été supprimé en 1941, il n'a jamais été réhabilité donc je n'ai pas le titre d'herboriste. Pour pouvoir exercer, je me suis orientée vers les études de pharmacie. Donc, j'ai fait tout mon cursus de pharmacie à Poitiers et j'ai fait un master en chimie, substances naturelles et médicaments à Reims, donc pour compléter ma formation. Et puis pour compléter aussi, j'ai fait une école par correspondance qui était sur 3 ans, qui est basée à côté de Montpellier et qui s'appelle Inderplan. Donc, c'était le cursus plantes médicinales et médecine douce. Donc par rapport à mon activité, donc à l'herboristerie du Figuier, je vous ai mis 2 photos de l'herboristerie. On trouve le végétal sous différentes formes, vous allez le voir. Donc la première, c'est les plantes sèches en tisane, donc comme ce que vous êtes en train de déguster. Donc première photo, vous voyez les fleurs de mauve, et la deuxième, c'est des fleurs de camomille romaine. Donc la mauve, c'est adoucissant des voies digestives, notamment, je cite les principales propriétés, parce qu'il y en a plein, mais on retient les principales. Et puis la camomille romaine, elle est utilisée pour des propriétés digestives, adoucissantes des voies digestives aussi, calmantes, sédatives. Et on l'utilise aussi en compresse oculaire pour apaiser les yeux fatigués. On retrouve aussi donc, des huiles essentielles. Donc là, on est sur une extraction des principes actifs par la vapeur. Donc, je vous ai mis un schéma très simple qui explique la distillation des huiles essentielles. Donc, en fait, on met les plantes ici et l'eau est chauffée. Et par entraînement à la vapeur d'eau, on extrait les principes actifs qui sont ensuite recondensés. Et on retrouve l'huile essentielle ici et les premières fractions de l'eau sont aussi chargées aromatiquement, et c'est ce qu'on appelle les eaux florales, donc les eaux florales ou hydrolats. Les plus connues sont l'eau de fleur d'oranger, l'eau de rose, l'eau de bleuet, ça vous parle sûrement, mais en fait, il y en a plein. Il y a l'eau de bleuet, camomille romaine, on peut même, donc il y a du géranium rosa, palmarosa, des thyms, des romarins. Et à partir du moment où c'est des hydrolats où il n'y a pas de conservateur dedans, qui sont bien stables, il y en a certains qu'on peut ingérer pour leurs propriétés thérapeutiques. Donc il faut bien les connaître. Et sinon, les hydrolats sont surtout utilisés en cosmétique, en tonique sur la peau, selon les différentes propriétés que ça a. Ensuite, dans l'activité, il y a aussi les huiles végétales qui peuvent être utilisées seules en usage cosmétique ou alors qui peuvent servir de base pour des mélanges avec des huiles essentielles. On retrouve aussi la gémothérapie. Donc, gémothérapie, ça vient de gemmes. Les gemmes, c'est les bourgeons. Donc, c'est en fait les bourgeons de plantes qui sont cueillis frais et mis à macérer dans de la glycérine et de l'alcool. En général, c'est une macération qui dure 3 semaines. Ensuite, c'est filtré et mis en bouteille. Et donc, on a notre petite préparation qu'on prend en gouttes. Là, je vous ai mis la photo. Donc, c'est les bourgeons de figuier qui sont apaisants du système nerveux, donc pour tout ce qui est stress, anxiété, problèmes de sommeil, et qui sont aussi apaisants du système digestif. Dans tout ce qui est aigreur d'estomac, remontée acide, ça va calmer. Et puis, la deuxième photo, c'est le petit flacon, là, c'est des bourgeons de cassis, c'est un bourgeon qui est très très utilisé pour ses vertus anti-inflammatoires notamment. Alors là, ce sont des extraits hydroalcooliques de plantes. Donc tout à l'heure, la gémothérapie, c'est vraiment les bourgeons spécifiquement qui sont cueillis et mis à macérer dans la glycérine et de l'alcool. Là, ça va être la plante. Alors ça peut être la fleur, ça peut être la partie aérienne entière, donc avec la feuille et la fleur. Ça peut être la partie souterraine, ça dépend. Et là, c'est mis à macérer dans de l'alcool. Ensuite, on filtre et c'est mis en bouteille et on prend aussi en goutte. Donc, par exemple, le pavot de Californie pour tout ce qui est problème de sommeil, notamment les réveils nocturnes, la pensée sauvage pour tout ce qui est problème de peau, et puis le pissenlit qui est un grand dépuratif de l'organisme, notamment au niveau du foie et des reins. On retrouve également des compléments alimentaires sous forme de gélules. Donc là, ce sont des plantes qui sont réduites en poudre et mises en gélules. Ou alors, il y a aussi des huiles végétales qu'on peut encapsuler, comme par exemple la bourrache ou l'onagre. Donc là, ça ne fait pas partie du règne végétal, mais ce sont quand même des produits qu'on trouve en herboristerie, donc des argiles et des produits de la ruche. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de facettes du végétal qu'on retrouve en herboristerie. Alors une question qui revient souvent dans mon activité, c'est quand j'explique comment préparer les tisanes, c'est quelle est la différence entre décoction et infusion ? En fait, la décoction, c'est on met les plantes dans l'eau, on amène l'eau à ébullition, et quand ça bout, à petit bouillon, on laisse bouillir comme ça tout doucement. Et ça, c'est la décoction. Donc on compte le temps de décoction à partir du moment où l'eau bout. Ensuite, on coupe le feu, on couvre, et on laisse infuser. Et donc l'infusion, en fait, c'est le moment... Enfin, il faut monter l'eau à ébullition, mais il ne faut pas laisser bouillir. On met les plantes dans l'eau, on amène à tout petit frémissement, on coupe, et là, c'est l'infusion. Donc, ça va être réalisé, en fait, en fonction... Souvent, c'est en fonction de la partie de plante qui est utilisée. Donc, tout ce qui est un peu coriace, ligneux, rigide, comme les racines, les graines ou les feuilles très coriaces, ça va nécessiter un temps de décoction pour que ça boue et qu'on puisse bien extraire les principes actifs qui nous intéressent. Donc, par exemple, en fait, ici... Ça, c'est la racine de chicorée. Je vous ai mis la fleur, mais en fait, en herboristerie, c'est la racine qui est utilisée, mais c'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait, parce qu'on en trouve sur les bords, sur les chemins par chez nous. Et la racine de chicorée, bah forcément, vous comprendrez que c'est coriace, donc il faut bien laisser bouillir. Juste à côté, c'est l'aubier de tilleul. Donc là, c'est une partie du bois qui est aussi ligneuse et donc qui nécessite de bouillir. Et puis la dernière photo, là, c'est la fleur de reine des prés. Alors là, au contraire, elle est très fragile. Il faut l'infuser avec une eau pas trop chaude. Donc vous voyez qu'en fait, en fonction des plantes et des parties de plantes utilisées, bah, si on veut en retirer le maximum des effets, il faut vraiment faire attention à comment on les prépare. Et alors là, je vais vous expliquer les points que je prends en compte pour concevoir une tisane. Donc déjà, forcément, on va réfléchir aux propriétés qu'on recherche. Si on veut plutôt quelque chose de digestif, d'apaisant, d'énergisant, de dépuratif. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, il faut faire attention... aux propriétés de chacune des plantes qu'on va mettre dans la tisane, qu'elles n'aient pas d'effet contradictoire. On ne va pas mettre une plante énergisante avec une plante apaisante. Ensuite, un point qui est important pour pouvoir boire la tisane, c'est quand même mieux qu'elle soit bonne. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, bon, il faut passer par le côté amer. Voilà. Mais si on a plaisir à la boire, c'est quand même mieux. Donc, on va mettre aussi des plantes pour parfumer. Souvent, on peut mettre donc des plantes aromatiques comme du romarin ou du thym, de la menthe. On peut mettre des choses citronnées, de la citronnelle ou de la verveine citronnée, ça parfume pas mal. On peut mettre des choses fleuries comme de la lavande. Et Ce qui est souvent utilisé aussi, c'est la réglisse pour avoir un côté un peu édulcorant. Par contre, la réglisse, il faut faire attention chez les personnes qui ont de l'hypertension. Il ne faut pas en abuser. Donc ça, c'est un point qui est important aussi, le goût et le visuel. Tant qu'on, si on peut se faire plaisir aussi quand on voit la tisane et qu'on se la prépare, et qu'on a plaisir à la préparer, je trouve que c'est important. Donc si on peut mettre en plus une plante qui a un bel aspect, comme les fleurs de mauve dans la dernière photo, ou des baies roses ou des baies de cardamome sur la première photo, voilà, ça agrémente aussi. On les met pour leurs propriétés, mais pour le visuel, c'est agréable aussi. Je crois que j'ai tout dit sur les tisanes. Et donc, pour exemple, je vais juste vous décrire rapidement les deux tisanes que vous avez dégustées avant de rentrer. Donc la tisane digestive que vous pouvez voir là. Alors, elle contient de l'angélique, donc Angelica archangelica, qui appartient à la famille des apiacées. Je vais passer rapidement et je vous dirai les propriétés après. Le cumin, Cuminum siminum, aussi de la famille des apiacées. Le fenouil, Fœniculum vulgare. La coriandre, donc toutes ces plantes, c'est la graine qu'on utilise ici en herboristerie, et l'anis vert, Pimpinella anisum. Et toutes ces plantes, elles font partie de la famille des apiacées, qui ont des propriétés digestives, carminatives et antispasmodiques. Donc carminatives, c'est-à-dire que ça aide ça diminue la production de gaz et ça facilite leur évacuation. Donc, voilà. Ensuite, la tisane énergisante, donc vous voyez le mélange ici. Donc, comme là, c'est des plantes coupées en petits morceaux, on ne se rend pas bien compte des plantes qu'il y a dedans. Donc, j'ai choisi de mettre de l'ortie piquante dedans, parce que c'est une grande plante qui est un dépuratif général de l'organisme et qui a des vertus diurétiques, qui est une grande reminéralisante, riche en silice, et qui stimule les fonctions digestives. Donc là, je l'ai mise en base. Au niveau du goût, c'est assez doux, l'ortie piquante. Ça va avoir un goût assez vert. Ensuite, pour aromatiser et puis pour les propriétés, j'ai mis donc du gingembre, stimulant général de l'organisme, tonique, tonique générale et tonique sexuelle. Il est aussi digestif et carminatif. Après, il a d'autres vertus, mais j'ai résumé. Et celui-ci, je l'ai mis pour le côté piquant et chauffant dans la tisane. Et en fait, plus on va le laisser infuser, plus ce côté piquant va ressortir. Le thym citron, donc Thymus citriodorus. C'est un stimulant général, intellectuel, digestif et sexuel. Il stimule aussi l'immunité et il est digestif et antispasmodique. Et je l'ai mis aussi ici pour le goût. Vous avez sûrement, ceux qui ont pris la tisane énergisante ont sûrement senti ce goût citronné, qui est assez doux. L'amande poivrée, donc elle est plus fraîche, elle vient relever un peu le mélange. C'est une plante qui est antispasmodique, digestive, qui est cholagogue cholérectique, donc qui a une action au niveau du foie sur la production de la bile et son excrétion. Et donc c'est un tonique général de l'organisme, ça je pense que vous le savez tous, vous avez déjà expérimenté. Et puis, cinquième plante du mélange, donc là c'est la citronnelle. Donc vous voyez, c'est une plante herbacée, propriétés digestives, et je l'ai mis ici surtout pour le goût aussi. Pour le petit côté citronné. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous écoute pour vos questions. Et j'ai fait aussi des petites boîtes avec les plantes, enfin une partie des plantes que j'utilise, et donc je voulais faire passer. Voilà. Il y a les noms en dessous.
Je peux distribuer pendant que s'il y a des questions. Une petite question, viens vers vous.
C'est une petite question. Est-ce que vous conseillez de boire la tisane avec du miel, du sucre ou nature?
Bah moi je la bois sans sucre, sans rien. Après, ça dépend des goûts de chacun. Bon, comme je disais, il vaut mieux boire la tisane hein, que vraiment ne pas réussir à l'avaler. Je privilégierais quand même le miel, mais bon, après, les personnes véganes prendront plutôt du sucre roux s'ils veulent vraiment sucrer. Donc voilà, c'est au choix. Et pas trop quand même.
Je pensais qu'en faisant des études de pharmacie, vous pouviez avoir le titre d'herboriste ou au moins de pouvoir mettre herboristerie. En fait, ça vous permet de ça.
C'est la législation. En fait, je peux mettre herboristerie, mais je suis pas herboriste. Mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Oui. En fait, en France, il y a une liste de plantes qui c'est par rapport aux plantes qui sont libérées par rapport au monopole pharmaceutique. En fait, il y a une législation depuis la suppression de ce diplôme en 1941. Il y a une liste de plantes autorisées à la vente en dehors d'une pharmacie. Donc moi, avant de commencer les études de pharmacie, il y avait 34 plantes qui étaient hors monopole pharmaceutique. Donc en gros, le thym, le laurier et le romarin, quoi. J'ai fait des études de pharmacie et en 2008, ils ont élargi cette liste de plantes à 148 plantes. Donc actuellement, on peut vendre 148 plantes en dehors d'une pharmacie. Donc il y a déjà pas mal de choses. Toutes les plantes que je vous ai présentées là, elles sont en dehors de la liste. Enfin, elles sont dans cette liste de plantes qu'on peut vendre en dehors d'une pharmacie. Voilà. Ça répond à la question ? Vous pouvez faire des infusions avec de la menthe fraîche que vous cueillez dans votre jardin. Après, voilà, en herboristerie, c'est un moyen de les conserver. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Du coup, vous disiez qu'il y a il y a forcément des plantes qu'on trouve dans notre région, dans notre secteur, et il y a des plantes sur lesquelles vous faites vous-même des cueillettes, des séchages, etc. pour votre boutique.
Moi, je fais des cueillettes et séchages de plantes pour moi personnellement, mais pour la boutique, non. Il faut des volumes et puis il faut une traçabilité sur les plantes. Et puis des volumes énormes, c'est vraiment un métier à part entière, la cueillette des plantes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Ah. T'as déjà arrivé jusqu'à vous.
Peut-être ai-je mal compris. Concernant les infusions, donc moi d'habitude je fais bouillir l'eau, je mets mes plantes et j'éteins tout. Alors que quand vous avez expliqué, j'ai eu l'impression qu'on mettait les plantes dans l'eau froide, on mettait à ébullition et on éteignait. Donc,
alors en fait, pour les puristes, si on le fait avec la casserole d'eau, l'idéal c'est de mettre les plantes dans l'eau froide, comme ça elles montent en température doucement avec l'eau. À partir du moment où ça boue, bah soit vous faites une décoction et là vous laissez bouillir, soit vous faites une infusion et vous coupez le feu tout de suite, mais vous laissez infuser. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'avec les bouilloires électriques, c'est quand même bien pratique. On a tendance à mettre l'eau directement sur la plante. Bon, si vous faites une infusion, ça marche aussi. Mais voilà, les puristes commencent à l'eau froide.
D'accord,
voilà.
Très bien, merci.
Même pour une infusion, ouais. Voilà. Et dès que ça arrive à frémissement, on coupe l'eau.
Et alors,
c'est mieux. Ouais, après, moi, je ne m'y connais pas. L'autre source, ça sera mieux. Après, je ne m'y connais pas suffisamment sur le choix de l'eau, mais c'est vrai que ça a une importance parce que c'est la majorité de l'infusion. Oui, voilà.
Et comment savoir si c'est préférable de faire une décoction ou une infusion ? Comment savoir s'il est mieux préférable de faire une décoction ou une infusion ? Il y a des plantes qui ne peuvent pas être...
Ça dépend de la plante utilisée.
Oui, voilà, c'est ça. Mm.
Et une chose que je n'ai pas dite, en fait, quand vous avez des plantes qui ont besoin d'une décoction, par exemple de l'aubier de tilleul, et vous voulez le mélanger avec de la menthe, vous pouvez très bien faire d'abord votre décoction avec l'aubier de tilleul, vous amenez à ébullition, vous comptez le temps de décoction. Ensuite, au moment où vous coupez le feu, là, vous rajoutez les plantes qui ne nécessitent qu'une infusion. Voilà. Et après, vous comptez le temps d'infusion et vous filtrez. Comme ça, vous avez votre tisane avec vos différentes plantes qui ont été préparées avec deux modes de préparation différentes. les fleurs de Bac, c'est vrai que j'en ai pas parlé. En fait, les fleurs de Bac, c'est une, je sais pas si tout le monde connaît peut-être pas, c'est une infusion solarisée de fleurs qui ensuite est stabilisée et qu'on prend en gouttes par rapport à la gestion de, bah, des émotions. Alors effectivement, c'est controversé. Moi, pour l'avoir pratiqué et pour avoir constaté les effets chez différentes personnes, je trouve que c'est dommage de s'en priver parce que ça... Il y a des gens chez qui c'est vrai que ça ne va pas du tout fonctionner, mais quand ça fonctionne, il y a des trucs quand même chouettes.
Une question toute bête, j'ai des plantes dans mon placard, il n'y a pas de date dessus. Par exemple, j'ai de l'eucalyptus dans une boîte, c'est resté bien au sec. Est-ce que ça se conserve indéfiniment ou pas ?
Ça ne se conserve pas indéfiniment. Alors déjà, il faut les conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. Si on les laisse dans un bocal, sur l'étagère, dans la cuisine, en plein soleil, c'est pas génial. Et l'idéal, c'est quand même de consommer les plantes de l'année. Après, bon, ça risque de plus avoir beaucoup de goût, quoi, et de propriétés.
Du coup, j'en profite. Justement, au niveau de l'eucalyptus ou d'autres plantes, j'en ai une qui pousse. Est-ce que je peux donc récolter les feuilles et puis m'en servir
Il faut que vous soyez sûr de la plante que vous avez.
Oui. Bah oui.
Et après, oui, vous pouvez très bien, si vous avez de la menthe dans votre jardin, oui, la couper, la faire sécher et l'utiliser après tout l'hiver. Le nombre maximum de plantes par infusion, ça, j'ai pas trop... Merci. Alors, moi, j'ai pas trop de règles. Après, il y a certaines personnes qui vont dire qu'il faut absolument utiliser qu'une seule plante parce que comme ça, on retirera les bénéfices vraiment de la plante. Il y en a d'autres qui préfèrent mélanger. C'est vrai que si on met 25 plantes entre elles, bon... Qu'est-ce qu'on va en retirer, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que 5 plantes, 5, 7 plantes, c'est pas mal. Et puis ce qui est bien quand on fait des mélanges, c'est qu'on a une synergie entre les plantes et du coup, il y a vraiment on peut combiner différentes activités entre elles et avoir un effet intéressant.
Non, là, c'était une première.
Pas pour l'instant.
Alors, j'ai peut-être pas entendu, mais vous êtes ouvert depuis combien de temps ? J'ai deux questions. Et après, c'est au niveau des fournisseurs, enfin de vos sources pour trouver les plantes. Je voulais savoir comment.
Alors, ça fait. J'ai ouvert en mars 2017. Et par rapport aux fournisseurs, en fait, je m'approvisionne auprès de grossistes. Voilà, je prends les plantes en bio et tout ce que je peux prendre d'origine France, je privilégie origine France. C'est bon ? Ah, merci.
Donc bien, merci de bien vouloir faire passer là, les échantillons pour les journées à clair. Donc voilà, c'est une petite introduction au début d'après-midi. Voilà, donc merci à Claire Hubert et je vous invite à regarder pareil autour de chez vous s'il y a des gens qui exercent cette profession et à vous renseigner. On va enchaîner avec trois autres personnes, donc Peggy Mulot, maintenant, dont j'ai fait la connaissance aujourd'hui, donc Lucille Bourou et j'ai oublié, Michel André, voilà Nicolas, non c'est Michel André, j'ai un petit problème de mémoire. Donc là encore, c'est pour montrer trois expériences différentes, dont deux qui sont vraiment liées à des activités en bibliothèque. Donc Lucille Bourou est la responsable de la bibliothèque scientifique du Muséum national d'histoire naturelle de La Rochelle. Donc elle va nous parler notamment des herbiers. Peggy Mulot, elle est responsable des médiathèques du comité de communes au Val-de-Sèvre, excusez-moi. Et donc Michel André, lui, est un dessinateur, et il croque tout, et il m'a montré toutes les animations qu'il a déjà faites autour des plantes. Voilà, donc je leur laisse la parole. ou une trois quarts d'heure à peu près. Donc qui commence? On n'avait pas déterminé. Donc on va commencer par Lucille Bourreau, donc Muséum d'histoire naturelle à La Rochelle. Alors j'ai oublié de dire par rapport, donc Lucille nous a fait une petite bibliographie du fonds, une petite parce qu'elle sent une page, du fonds scientifique parce qu'il y a, il y a une bibliothèque. Donc alors j'ai pas fait des photocopies pour l'ensemble des personnes, mais j'ai un certain nombre de photocopies du document qu'elle nous a fait parvenir. De toute façon après, il faudra que j'en reparle avec Lucille, mais peut-être qu'on pourra le mettre en ligne, je sais pas. Donc voilà, pour ceux qui le souhaiteront, il y a une trentaine de photocopies donc, du fonds ancien de la bibliothèque scientifique du muséum, mais elle nous en dira plus. Voilà.
Merci, donc, bonjour à tous. Je suis responsable de la bibliothèque scientifique du muséum de La Rochelle depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est un fonds assez considérable, environ une centaine de milliers de documents et livres. Je vais vous présenter déjà un petit peu le muséum de La Rochelle. Je ne sais pas si l'ensemble de l'assistance a déjà eu l'occasion de le visiter ou non. Alors, il y a 2300 mètres carrés d'exposition et le bâtiment a été entièrement rénové en 2007, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Une petite idée de l'arrière du bâtiment. Nous avons trois médiateurs scientifiques et une salle d'animation spécifique, donc on peut faire un certain nombre de choses, notamment sur tout ce qui concerne la botanique. Pour la totalité du muséum, on compte environ 350 000 objets ou lots. Donc les collections du muséum vont de la paléontologie à la zoologie, en passant par un certain nombre de pièces assez exceptionnelles ethnologiques. Et pour ce qui concerne les herbiers, il y en a environ 80 000 parts. Donc ça, c'est une estimation qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années. Et donc en ce moment, on est en train de faire un gros travail de numérisation, inventaire, etc. Donc on aura sûrement des chiffres plus précis très bientôt. Et il faut savoir aussi qu'on continue à acquérir des collections. Donc voilà, 80 000 parts d'herbiers, c'était il y a 15 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, on est à plus que ça avec les nouvelles acquisitions. Ah oui, il y a une bibliothèque scientifique, bien sûr, qui se situe dans le bâtiment administratif, donc qui ne fait pas partie de la visite classique du muséum, mais qui est en fait ouverte à tous sur rendez-vous. Alors, sur rendez-vous parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux, malheureusement, pour faire une ouverture classique de bibliothèque à horaire régulier. Mais voilà, il n'y a pas de distinction. On n'est pas obligé d'être chercheur ou étudiant pour venir à la bibliothèque. Il faut juste envoyer un petit mail ou passer un petit coup de fil pour venir voir les collections. C'est tout à fait possible. Alors, les herbiers. Ils sont conditionnés dans les réserves. Alors, je vous ai fait une photo du nouveau conditionnement parce que je peux vous dire qu'avant, ça ne ressemblait pas du tout à ça. C'était plutôt, vous savez, l'image qu'on a des liasses d'herbiers totalement bombées avec les liens en textile et puis les vieilles attaches rouillées. Voilà, c'était tout à fait ça. Maintenant, on a une politique de reconditionnement qui permet quand même à la fois de les rendre plus accessibles et aussi de les conserver dans des meilleures conditions. Et ce sont des collections assez importantes. Pour vous donner une idée, nous avons une partie de l'herbier bon plan. Alors, pas le bon plan qui est parti en Amérique du Sud, mais son frère. Donc, ça a quand même une importance historique assez intéressante. Et on possède aussi l'herbier de la Société des sciences, donc, qui a récupéré l'ensemble des collections qui ont été... comment dire ? Cueillies et mises en page par les plus grands scientifiques de La Rochelle. Donc voilà, il y a quand même des collections vraiment très, très intéressantes et on a des chercheurs qui viennent passer beaucoup de temps sur les herbiers pour faire de la détermination, etc. Alors je vous le disais, on a un gros programme de mise en valeur des herbiers, notamment c'est un programme national qui a été lancé par le Muséum National qui s'appelle IRECOLNAT. Je vous montrerai le site tout à l'heure. Donc voilà, c'est un gros programme de numérisation à l'échelle de la France entière. Et donc, on est inscrit dans ce programme. Donc, on fait de la numérisation. Il y a des normes très particulières pour la prise de vue et aussi pour l'étiquetage. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite étiquette avec un code barre. Alors, en fait, normalement, ça permet de passer dans des chaînes de numérisation, de lire le code barre et d'avoir accès à l'ensemble des informations qui ont été intégrées sur cette part d'herbier. Voilà. C'est un programme qu'on fait en partenariat avec le laboratoire L3I de l'Université de La Rochelle. C'est le laboratoire informatique, images et interactions, si je me souviens bien de l'acronyme. Donc en fait, ils ont du matériel qui permet de faire des numérisations de très haute qualité. Donc on travaille avec eux sur ces projets-là. Donc je vous disais, il y a aussi des normes nationales. Et ça permet d'intégrer nos collections à une plateforme collaborative que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce site internet aliénor.org. C'est une association qui travaille avec l'ensemble des musées, alors anciennement Poitou-Charentes et nouvellement Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, ça permet au grand public d'avoir accès aux collections de l'ensemble des musées qui sont intégrées sur la base de données. Alors, je ne pourrais malheureusement pas vous montrer d'herbier parce qu'ils sont bien sur la base de données, mais pour le moment, ils n'ont pas été basculés sur la base publique. Donc, voilà, on entre les collections sur la base, mais il y a toujours une validation avant de mettre à disposition du grand public. Mais donc, si vous allez sur ce site, très bientôt, vous allez pouvoir accéder aux collections d'herbier avec les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc avec une recherche possible en fonction des différents non scientifiques, lieux de collecte, etc. Donc ça permet quand même d'avoir accès à beaucoup d'informations qui sont très intéressantes sur les plantes et sur l'histoire de la botanique. Et donc voilà le fameux site Irécolnat. Donc il n'y a pas que des herbiers sur ce site, mais la botanique est une part importante de cette base de données nationale. Et donc là, vous avez accès à l'ensemble des collections qui sont présentées à Montpellier, à Paris, à Grenoble. Voilà. Et c'est toujours le même principe. Vous pouvez faire une recherche en fonction d'une plante particulière si vous souhaitez voir toutes les parts d'herbier qui présentent, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de camomille romaine, par exemple. Ou vous pouvez faire une recherche en fonction d'un lieu. Vous voulez connaître toutes les plantes qui ont été récoltées en Poitou-Charentes ou même dans des lieux plus précis. Parce que normalement, les planches d'herbier donnent une localisation très précise de l'endroit de cueillette. Donc voilà. Et c'est à savoir aussi que c'est assez intéressant pour les chercheurs parce que ça permet d'avoir accès à des données anciennes de répartition des plantes et donc de voir aussi l'évolution par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement dans certaines régions. Alors, il y a aussi des ressources au niveau de la bibliothèque scientifique, donc un certain nombre d'ouvrages qui permettent de faire de l'identification de plantes si vous avez trouver des choses dans votre jardin, dans votre rue ou lors d'une promenade. Vous pouvez venir à la bibliothèque pour essayer de mettre un nom sur la plante en question. C'est aussi un espace de travail modulable. Alors en ce moment, il est plus souvent en mode conférence qu'en mode bibliothèque, mais en théorie, il devrait pouvoir être comme ça aussi. Donc, ce qui permet quand même d'avoir un espace pour travailler à partir de ses propres échantillons. Et présentation, donc j'ai mis sous réserve, d'ouvrages du Fonds Patrimoine. Donc, je vous disais quand j'avais fait une petite liste de ces ouvrages. Donc eux ne sont pas conservés dans la bibliothèque, ils sont conservés dans les réserves, avec les herbiers, entre autres. Et ils sont accessibles, donc c'est sous réserve qu'ils soient en bon état de conservation et qu'il y ait une manipulation par un des agents du musée, parce que ce sont des ouvrages vraiment très, très anciens et très précieux. Mais il est possible quand même d'avoir accès à ce type de référence qui peut parfois être assez intéressant à regarder. On a quand même beaucoup d'ouvrages, notamment des grandes explorations de la fin 18e, début 19e siècle. Donc il y a des atlas qui sont absolument magnifiques. Donc là, c'était un exemple de plantes qu'on peut trouver en Polynésie, puisqu'on va bientôt accueillir une exposition sur l'île de Pâques. Donc on a fait un travail documentaire sur tout ce qu'on peut trouver en sciences naturelles en Polynésie. Et les types de travaux qui peuvent être proposés au muséum autour des herbiers. Donc on peut avoir un accompagnement des médiateurs pour la constitution d'herbiers. Une visite des collections, alors j'ai pas de photos, mais il y a quelques planches d'herbiers qui sont présentées à l'intérieur du muséum, notamment pour tout ce qui est description des milieux comme le marais poitevin, etc. Donc ça permet d'avoir une idée de la flore de ces milieux. Et on a la chance d'avoir un jardin des plantes qui est maintenant intégré complètement au parcours de visite du muséum. Donc, voilà, qui permet, c'est un lieu assez propice à la promenade, mais il y a des carrés spécifiques avec la présentation de plantes exotiques en rapport avec les collections du muséum. Et il y a eu plusieurs créations sur les thématiques de carnets naturalistes. Donc ça, ce sont mes collègues médiateurs qui ont travaillé sur ça dans des projets longue haleine avec des classes. Et donc qui ont créé plusieurs types de carnets naturalistes. Donc je vous ai mis uniquement un exemple botanique, mais ils ont fait d'autres types de travaux. Donc voilà pour le muséum. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est en centre-ville, en fait. Juste au-dessus de la place de Verdun. Pas très loin du marché, c'est ça.
Ah, une question, attendez.
Oui. 14-19 et 10-19 pour le dimanche. Journée du patrimoine. On a tout un tas d'animations sur les jeux, et notamment les jeux extra-européens, puisque c'est la thématique des journées du patrimoine.
Qui est-ce qui est intéressé par le fonds?
Je vais faire accélérer les choses. Les jeux, ils sont spécifiquement pour les journées du patrimoine, mais après, c'est un de mes collègues médiateurs qui a travaillé dessus, donc je pense que c'est quelque chose qu'il va réutiliser pour d'autres occasions. Je ne sais pas du tout ce qui... on travaille par ensemble, par collection, pour essayer de garder une certaine cohérence. Et là, je crois qu'on a fait bon plan, c'est sûr. On a fait l'herbier faille et on a travaillé sur l'herbier de la société pour avoir vraiment le fond local. Mais après, je ne sais pas ce qui reste à numériser. D'accord, bah alors c'est qu'il y en a sûrement. Oui. C'est une question qu'on ne s'est pas posée encore. C'est la présentation hors les murs de certains ouvrages du fonds ancien. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire ce genre de choses. La difficulté est toujours la même, c'est le temps et le personnel disponible. Voilà, et sinon, ça, c'est des choses que j'avais envie de développer. Comme la bibliothèque n'est pas ouverte au public, il faut trouver d'autres façons de la faire connaître et de la valoriser. Donc, ça peut très bien être envisageable.
D'autres questions? Je dois avoir 3 exemplaires des photocopies du fonds ancien. Pas de regrets. Voilà. Pardon. Ah ben bah oui, ben bah voilà. Je crois que c'est la dernière. Voilà. Je crois que j'ai vendu trop. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vais passer à l'ordre de la parole à qui veut bien prendre la suite. Donc j'en profite 2 minutes le temps que la technique arrive. Toutes les conférences de la journée ont été enregistrées et seront mises en ligne sur le site internet de l'Espace Mendès France d'ici une grosse semaine. Voilà. Donc ne cherchez pas dès ce soir en rentrant. Voilà. Donc voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas pu assister ou qui veulent réécouter des choses. Donc merci à nos intervenants de nous autoriser donc à diffuser ces informations. Donc Madame Hulot, allez-y.
Donc je suis ici, je représente les médiathèques du Haut-Val-de-Sèvre. Le Haut-Val-de-Sèvre, c'est cette communauté de communes qu'il y a entre Grand Poitiers et la communauté d'agglomération de Niort, pour vous situer. Les 2 médiathèques dont je m'occupe sont situées à Saint-Mexant-l'École et à La Crèche. Et on va tout particulièrement aujourd'hui parler de la médiathèque Aqualibris à Saint-Mexant-l'École. Donc vous avez une photo ici. Aqualibris, c'est une médiathèque de 1500 m² qui a ouvert en septembre 2015, on va fêter notre anniversaire la semaine prochaine. C'est une médiathèque qui est installée dans une ancienne piscine militaire Art déco, donc avec une structure en béton qui date du début des années 30, donc un bâtiment très spécifique, une très belle réhabilitation, très, très facile d'utilisation d'un point de vue pratique pour les bibliothécaires. Enfin, voilà, on a un environnement de travail assez exceptionnel. C'est un outil qui dessert donc une population de 31 000 habitants avec d'autres bibliothèques autour, mais c'est la médiathèque la plus grande. Et du coup, à l'ouverture, il y avait une attente énorme du public d'un certain nombre d'animations, de dynamisme. On est sur un territoire où il n'y a pas de centre socioculturel. Donc voilà, il y avait des attentes en termes d'information, d'animation, de partage. Et dès le départ, on a su qu'on allait travailler sur des thématiques très larges. Et donc, on a pris le parti de janvier à juin, tous les ans, de proposer une thématique fil rouge qu'on décline sous différentes formes. Et la première thématique qui a été choisie, ça a été le jardin, parce qu'on avait des collections assez denses de livres sur le jardinage, la botanique, la culture, la permaculture, enfin voilà, les graines, les plantes. C'était assez, assez vaste. Et on s'est dit qu'on allait proposer des animations, des actions pour tous les publics. Alors, hop. Donc, on a établi un programme qui s'est concentré sur mai et juin pour la partie publique. On a travaillé sur une durée un petit peu plus longue avec les scolaires. Donc, comme vous le voyez, des expositions, des ateliers, des conférences. Alors là, il y avait des projections, mais il n'y en a eu qu'une. Et un spectacle. Tout ça s'est articulé autour du lancement d'une grainothèque. Donc, on fait partie des bibliothèques qui sont dotées d'une grainothèque. On en a vu fleurir dans un certain nombre d'établissements. Ça continue et c'est très bien parce que le principe de la grainothèque, c'est un échange, un troc de graines qui se fait de façon directe ou indirecte. C'est-à-dire que les gens peuvent déposer leurs graines. On a des petits sachets. Je vous le montrerai après, des petits sachets en papier qu'on met à disposition. Donc les gens peuvent écrire ce que sont leurs graines et à quel moment ça se sème et les déposer, ou alors nous les donner s'ils ne veulent pas faire l'ensachage. Ils peuvent nous en parler ou pas, ils peuvent en parler à d'autres personnes ou pas. Voilà, chacun s'approprie le rythme de la grainothèque. Donc pour nous, c'était le cœur de ce programme-là, c'est-à-dire d'avoir un outil qu'on fasse vivre au fur et à mesure, sur plusieurs années, et qui soit à chaque fois fois un lieu d'échange. Donc, dans la médiathèque, c'est un endroit qui est bien signalé. C'est son espace. On a une table avec nos graines. On a des grilles de présentation de livres qui tournent, de livres CD, DVD. Voilà. Donc, c'est notre coin jardin. Qu'on a lancé donc au tout début de ce programme sur le jardin. On a rattaché un certain nombre d'actions locales comme Conte en chemin, qui est un festival itinérant du conte, à cette thématique du jardin. Donc on a demandé à la conteuse qui devait venir de nous conter des histoires du jardin, ce qu'elle a fait. On a projeté le film d'Emma Good, In Transition, le premier, qui parle des villes en transition, c'est-à-dire ces villes qui utilisent des espaces urbains pour planter, semer des fruits, des légumes, des plantes, mais des choses sur lesquelles les citoyens ont prise, c'est-à-dire qu'ils peuvent planter, semer, ils peuvent récolter. C'est un film très intéressant, je le conseille, sur les transitions des villes. On a travaillé donc au niveau de la grainothèque. Avec Graines de Troc, qui est une référence, qui a travaillé sur des présentations visuelles, des descriptifs, la réglementation, parce que la grainothèque, on ne peut pas diffuser n'importe quelle graine. Il y a un catalogue national de graines qui sont approuvées, que ce soit pour les exploitants, pour les maraîchers. Ça marche aussi pour les médiathèques. Donc on doit, il y a un certain nombre de semences qu'on ne peut pas forcément diffuser. Il y a des plantes qu'on ne peut pas diffuser parce que c'est pas forcément légal. Donc voilà, on a une certaine vigilance. Si les gens déposent eux-mêmes leurs graines, on a quand même une certaine vigilance à avoir. On regarde ce qu'on propose. Et puis, on est bibliothécaire, on aime bien classer. Donc on vérifie que les graines de légumes sont bien avec les légumes, que les graines de fleurs sont bien avec les fleurs. Et comme ça, que les gens dans les petites cases s'y retrouvent assez facilement. Dans ce programme-là, on a eu, alors à Aqualibris, on a un espace extérieur assez grand, une terrasse qui était vide quand on s'est installé. Enfin, il y avait juste du mobilier. On trouvait ça un petit peu triste parce que le revêtement, c'est du béton. On avait le mobilier dessus, il n'y avait pas de végétaux. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre des jardinières. Et là, on a des lecteurs qui ont dit « Ah, mais nous, on sait faire des jardinières en palette ». Donc on a dit, mais il n'y a pas de souci, on va faire un atelier. Donc on a fait un atelier participatif. Alors avec notre petit fourgon, on est allé faire de la collecte de palettes auprès d'entreprises locales. Et on a fait un atelier sur inscription où un certain nombre de lecteurs sont venus pour apprendre à faire une jardinière en palettes. Et du coup, on en a construit 3 pour la médiathèque. Et ce sont des jardinières pédagogiques. Elles accompagnent la grainothèque, c'est-à-dire que tous les ans, on fait nos propres semis et dans ces jardinières, on a des aromates que les gens... si les gens manquent de ciboulette pour la salade de midi, ils peuvent venir cueillir la ciboulette. Il y a des tomates cerises que les gens peuvent manger en choisissant leur livre ou en lisant une histoire aux enfants. On a des fraises. Cette année, on avait des artichauts. Je suis désolée, c'est dans le désordre, en fait. Donc, alors ça, ce sont les graines, les petits sachets de graines. Donc là, on a des graines de monarde qui se sèment de mars à juin ou de septembre en septembre-octobre avec des petits conseils. Au ras du sol, sec l'été, pas trop humide en hiver. Enfin voilà, après, on peut mettre des petits conseils comme ça. C'est bien parce que c'est des petits conditionnements. À chaque fois, on met quelques graines. Et du coup, ça permet aux gens d'essayer. Voilà, si jamais ils ont des doutes sur des plantes qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. On a eu ça récemment avec des carottes. On avait différentes variétés de carottes, la carotte traditionnelle, carotte des sables oranges. On avait de la carotte jaune, on avait de la carotte noire. Enfin, voilà. Ça permet aux gens de prendre quelques graines et d'essayer. Alors, il faut réussir ses semis. Hein. Ça, c'est la condition. Donc les jardinières, quand elles ont été faites, les premiers plans et ce que ça donnait après. Donc là, cette année-là, on avait des courgettes. Les tomates cerises, ça marche très très bien, donc on en a très régulièrement. Les aromates, on a eu des pois, enfin voilà, on a fait différents essais. Et ça a très bien fonctionné. On a travaillé aussi avec, avec Caroline Scott-Berger, qui est conceptrice paysagiste, qui est venue faire des conférences sur le jardin, la conception du jardin et comment aménager un jardin en préservant des espaces de biodiversité. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas une paysagiste qui fait des choses au carré avec des variétés très définies. Voilà, elle encourage des espaces plus hasardeux, plus foisonnants pour que les insectes puissent faire leur vie et apporter, apporter ce qu'ils ont à apporter dans les jardins et en matière de biodiversité. Donc elle a fait une conférence pour les adultes et elle a aussi fait un atelier sur les insectes auprès des enfants pour là aussi sensibiliser les enfants à l'importance des insectes, même les petits insectes qui peuvent paraître un peu dégoûtants et parfois qui font peur aux enfants, et voilà, essayer de les réconcilier avec, avec ces petites bêtes-là et leur montrer l'importance qu'ils ont dans le jardin et dans la nature en, en général. On a aussi eu un atelier sur le micro-jardin. Ça nous a permis, à travers cette, cette animation-là, d'aborder la, la question des mini-jardins. Donc là, c'est un atelier pour les enfants. Donc dans un bocal en verre, on a créé un mini-espace en achetant des petites plantes. Voilà. Donc, et ça nous a permis de, d'aborder la question, parce qu'on est sur un territoire, Saint-Mexant-l'École, c'est 6500 habitants, mais la communauté de communes, 31 000 habitants, avec de grandes zones rurales. Donc il y a autant d'enfants qui sont dans des appartements qui n'ont pas forcément de jardin à eux, il n'y a pas forcément de jardin ouvrier ou de jardin partagé sur la commune, mais il y a aussi des enfants qui ont des jardins qui peuvent faire même plusieurs milliers de mètres carrés parce qu'au bout il y a des arbres fruitiers, y a, voilà. Donc ça a permis d'aborder la question des différents jardins et de dire que même avec quelques graines on peut se créer dans une jardinière un petit jardin. Voilà, donc qu'un enfant il peut très bien avoir une petite jardinière où il sème un peu de radis, où il sème. Alors ça a été assez amusant parce qu'on en a fait. Donc en général les enfants mettent beaucoup de graines, mettent beaucoup d'eau, font une espèce de tambouille et tout pousse. Alors vous, vous pouvez semer au cordeau comme c'est indiqué en espaçant, etc. Et vous allez avoir la moitié de la récolte qui va donner. En général, eux, ils font des tambouilles et on a eu des jardinières complètement, complètement délirantes avec des légumes principalement qui ont très très bien donné. Donc voilà, on fait tous les ans au printemps une action de présentation à nouveau de la Grainothèque, parce que c'est un travail sur le long terme. Donc ça, c'est le planning, enfin le programme de cette année qui était plus léger parce que on n'était pas sur une thématique fil rouge. Mais on relance la Grainothèque, ça nous permet d'informer les nouveaux lecteurs, ça nous permet de remotiver les lecteurs pour les dons, je vais en parler juste après. On a eu des ateliers autour du printemps donc, pour les enfants et on sélectionne toujours des ouvrages. Ça nous arrive de faire des cafés-rencontres aussi en fonction des propositions des intervenants ou des passionnés, des lecteurs passionnés qui veulent échanger ou parler du jardin. La Grainothèque, elle a donc 3 ans. On l'a ouvert en avril 2016. Elle est toujours là, elle fonctionne, elle est identifiée, elle plaît. Après, comme dans beaucoup d'endroits, la difficulté, le gros frein à cette dynamique, c'est il faut veiller à l'engagement des professionnels, parce que si les bibliothécaires ne sont pas vigilants à l'attractivité de la zone Grainothèque, ça dépérit. Et aussi, il faut remotiver les lecteurs, parce que nos petits sachets de graines partent vite. Les réserves entrent beaucoup moins vite. Et surtout, en général, ce qui nous arrive, c'est les graines qu'on peut récolter très facilement. Donc, on a des graines de courge pour 20 ans, je pense. Parce que sur un potimarron, y a des gens qui utilisent les graines, qui les mangent parce qu'ils savent les préparer, mais pas tout le monde. Mais du coup, c'est une récolte qu'on peut faire très rapidement. Donc, un partage qu'on peut faire très facilement. Mais pour le coup, on en a des quantités extraordinaires. C'est moins facile avec les graines de tomates, par exemple. On est un certain nombre de bibliothécaires dans la structure à alimenter avec nos jardins, etc., pour qu'on garde une diversité de graines à donner. Mais c'est une dynamique qui est parfois difficile à mettre en place avec les lecteurs. Et puis, bien sûr, il y a les petites attentions à avoir, parce qu'il y a des gens, bon, c'est un accès libre, c'est un accès gratuit, donc on a des gens parfois qui font des razzias de graines, donc on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà, on n'a pas d'indication de réduction en disant vous n'avez droit d'emporter que 2 sachets maximum, etc. Mais on essaie de faire de la médiation pour que là aussi on est dans un dispositif gratuit, ouvert, de partage. Le partage, ça passe aussi par laisser une part à la personne qui vient après. Donc voilà, c'est une action qu'on va poursuivre, qu'on va certainement étendre à la deuxième médiathèque du réseau, la Ronde des Mots à la crèche. Là, en passant en partenariat avec une association. Mais en tout cas, c'est une dynamique qu'on souhaite continuer et sur laquelle voilà, il y a de bons échos. Cette année, on l'a redynamisée un petit peu plus tard que les autres années. On a des lecteurs qui sont venus nous voir en disant du coup, dans la grainothèque, est-ce qu'il va encore y avoir des choses? Parce que souvent, quand on fait nos semis, il y a des lecteurs qui nous aident. Donc, ça crée des temps d'échange et on se rend compte qu'il y a des lecteurs qui ne se connaissaient pas, qui se retrouvent à prendre des graines en même temps, qui du coup en profitent pour discuter jardin. Voilà. Donc, c'est ça. Le but, c'était celui-ci et ça fonctionne. Merci beaucoup.
Là, je pense que ça peut vous inspirer par rapport à la thématique de la science du livre pour 2020. Donc, je pense que Peggy Mulot répondra à des questions, notamment si vous voulez des références par rapport à la conteuse ou par rapport à la personne qui a fait des conférences. Voilà, je m'engage pour elle, mais bon, voilà, pour qu'elle fasse profiter de son expérience. Voilà, donc maintenant, on va changer un petit peu de domaine. On va toujours parler de plantes, bien sûr, parce que c'est la thématique, avec Michel André. Va nous montrer son travail.
Bonjour. Je m'appelle Michel André, mais on m'appelle Croque-Tout. Alors, je l'ai bien voulu. Donc, je vais vous parler, pas de l'ensemble de mon activité, mais de choses qui sont centrées sur les ateliers, et puis les ateliers en particulier sur le végétal. Alors, juste un petit mot sur ce que c'est que l'atelier Croque-Tout. Donc, avant tout, moi, je suis aujourd'hui illustrateur, dessinateur. J'ai appris à dessiner quand j'ai appris à devenir architecte il y a longtemps. Et aujourd'hui, je ne fais plus que ça, je dessine et j'apprends à dessiner et à peindre. Donc j'ai créé l'atelier Croque-Tout il y a quelques années pour partager et proposer à des gens, des petits et des grands, indifféremment, à apprendre à dessiner, parce que dessiner, c'est simple, ça s'apprend simplement, tout le monde est capable de dessiner. C'est comme le tricot ou la mécanique, ça s'apprend. Et c'est beaucoup plus simple que d'autres choses, comme je disais à midi, comme la musique. C'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux. Le dessin, on peut arriver très facilement à faire des choses très sympas et à se faire plaisir. Donc j'ai commencé à créer un petit atelier Croque-Tout avec une librairie où j'avais fait une petite expo à Niort, puisque j'habite à côté de Mel. Et le principe aujourd'hui, donc avec un petit groupe que je rassemble par des moyens divers, ou avec une classe, puisque je travaille avec des classes en intervention ponctuelle, sur une demi-journée, sur une journée, même en classe verte. Cette année, avec l'Espace Mendès France, j'ai travaillé avec une dizaine de classes aux Trois Cités, à Poitiers, sur le thème de la biodiversité. Donc en fait, le principe, c'est une promenade, mais une promenade assez vite active. Donc ça peut être d'un coin de campagne, d'un centre de village, d'un bourg, d'un quartier de ville. Donc l'atelier Croque-Tout en général, puisqu'au départ, moi j'ai dessiné beaucoup de minéral, beaucoup d'urbain. Et puis je me suis mis à dessiner aussi dans d'autres milieux, et notamment des milieux naturels que j'affectionne. Donc ça consiste, en fait, l'objectif, c'est une initiation ou ensuite un perfectionnement. Au croquis in situ, alors on l'appelle croquis urbain souvent. Moi, j'aime pas trop cette appellation parce qu'elle est trop restrictive, puisqu'on fait pas que de l'urbain. C'est du croquis in situ, et le matériel basique, c'est ça. C'est un petit crayon vert, comme à l'école. Et donc, avec ça et une feuille de papier, le calendrier du facteur pour que ce soit rigide, on prend beaucoup de plaisir. Voilà, tout le monde peut le faire. Et puis, couleur, donc ça, facultatif, parce qu'on a le temps ou on n'a pas le temps, on a envie ou on n'a pas envie. Et les couleurs, moi, j'utilise de l'aquarelle. J'initie les gens à l'aquarelle, qui est un média fantastique, facile, qui se met dans la poche, qu'on peut pratiquer partout. On a besoin de vraiment très peu de choses, c'est très léger. Alors, ce que je... Bon, ça, c'est quelques photos de quelques ateliers. Donc, j'ai un tas de photos. J'évite de prendre les gens en photo, rassurez-vous. Tous ceux qui étaient là m'ont donné leur accord. Et quand je le fais avec des enfants, j'aime beaucoup prendre leurs mains qui dessinent, parce qu'on a des choses très chouettes. Donc, ça, c'est Amel, des choses qui se passent. Donc, je dessine du bâti. Je dessine, il doit y avoir un pointeur là-dessus. Toc. Avec des enfants, une petite fille de 6 ans qui est venue. Sa maman m'avait dit, elle n'a que 6 ans, est-ce qu'elle peut venir? La réponse est, si elle a envie de dessiner, oui. Et voilà, et ça s'est passé super. Alors, croquer le végétal, donc je propose dans le cadre de ce programme annuel, un atelier croquer le végétal. Donc, en quoi ça consiste? Croquer notre environnement naturel. Donc surtout quand on dessine, quand on fait un atelier de dessin comme ceux que je propose, on s'arrête, on prend du temps pour observer, pour comprendre ce qu'on a sous les yeux. On découvre des choses qu'on n'avait jamais vues dans un univers très proche. Et puis on prend des notes dessinées, on va le dire comme ça, puisque c'est un croquis. Encore une fois, avec un matériel très simple. Donc on part avec un truc dans sa poche et un petit carnet. Moi, je me promène avec un petit sac à dos ici et plus loin. Et voilà, ça suffit, c'est léger. En bas, une petite photo du travail qu'on a fait l'année dernière dans le parc du Triangle d'Or aux Trois Cités, puisqu'il y avait trois écoles de CM2 et on est resté dans le parc de la cité. Et puis, on est descendu au bord du Clain avec des sixièmes. Autre chose que je pratique, donc qui peut aussi se décliner avec des publics scolaires ou non scolaires, c'est ce que j'ai appelé une journée carnet de voyage, donc que je pratique soit seul, soit avec, par exemple, un historien. J'ai fait ça avec le pays d'arrêt d'histoire du Mélois. Donc on choisit un village, on a fait ça pendant 2 ans. On choisit un village, on va faire un repérage avant. L'historienne, puisqu'en l'occurrence c'était l'historienne, fait un commentaire. On se promène avec un petit sac à dos, un pique-nique. Et moi j'ai préparé des petits carnets format A5, la moitié d'une feuille de format courant, des petits carnets avec des feuilles blanches, un petit peu illustrées. Et j'accompagne les gens pour réaliser sur une journée leur carnet de voyage dans un village qui est très proche de chez eux, parce qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin pour voyager. Et en plus, quand on dessine, ben, on voyage encore plus juste à côté de chez soi. Donc là, on était à Loubier, donc au sud de Boyoux-sur-Boutonne, un petit coin que personne ne connaît, où on a été accueillis formidablement. Et puis, on est allé dessiner au milieu des champs, pas encore complètement... Voilà, du travail qu'on a fait avec les enfants l'année dernière à Poitiers. Donc, on dessine, vous allez le voir, du paysage. Zut, du paysage. Alors, moi, je tiens absolument à, quand je travaille avec les enfants sur ces sujets, à passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire à travailler sur deux échelles. Ce qui est assez intéressant, dans la même journée, avec la même personne. Le même enfant fait a une approche différente, deux approches différentes, avec deux échelles différentes dans un même espace. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc, je leur apprends à dessiner un paysage vert, entre guillemets, et puis ensuite à observer et dessiner des éléments de détail. Voilà. Et ils me font découvrir aussi leur propre technique. Donc c'est une approche assez, je dirais pas poétique, mais sensible d'un environnement. Et puis, les enfants découvrent le plaisir, la richesse de l'observation. Pas besoin de leur expliquer, ils découvrent tout seuls, ils sont émerveillés, ils ont des grands yeux, ils veulent continuer, ils ne veulent pas s'arrêter à la fin. Parce que c'est magique, quoi. Et ceux qui au début n'ont pas envie, quand c'est dans le cadre scolaire, ils ne veulent plus s'arrêter. Voilà, quelques petites photos de choses diverses et variées faites avec des enfants, des adultes là-haut. Ici, au bord du Clain, au parc des Trois Cités, dans le même parc, avec des dessins à plusieurs mains, et puis des choses qui sont faites dans le Maine-et-Loire. Voilà, donc concrètement, c'est un croquis, on fait du croquis, on ne fait pas du dessin botanique très sophistiqué, on fait du croquis, on apprend à observer, à croquer ce qu'on voit, ça permet de croquer quand on promène. Donc c'est un dessin relativement rapide, au crayon, à l'aquarelle, ça se pratique sur une demi-journée. Le temps d'attention effectif des enfants, c'est environ 2 heures, mais il a besoin d'être ponctué. Et puis avant, entre guillemets, je les mets en condition en leur présentant quelques dessins pour les mettre en appétence. Je leur explique ce que je fais, pourquoi, qu'est-ce que c'est. Et puis on y va, on va vers le lieu qu'on a choisi. Et ça prend une demi-journée, c'est-à-dire entre 2 et 3 heures, suivant si on... Voilà. Le public, c'est tout le monde. À partir de, comme je disais tout à l'heure, 7 ans, on va dire, à l'école primaire. Et puis, ça s'adresse aussi aux collégiens, aux lycéens, même aux plus grands. J'ai travaillé avec l'école des arts, une école d'art appliqué à Poitiers. Alors là, c'était plus sur de l'urbain, mais c'était le même principe. Le tarif, c'est pour le groupe. Le groupe, il est large. Donc, je travaille avec des groupes importants, une classe entière. Et puis, le matériel, il est assez peu important, comme j'ai dit tout à l'heure, et il est fourni par les gens qui viennent, ou l'école. Donc, c'est juste du papier, un crayon de papier. Puis la couleur, on fait avec ce qu'on a. On fait même avec les fleurs sur place, quand on veut, ou les murs. Il y a pas mal. J'ai l'adresse de mon blog qui est ici. Je vous ai laissé des petites cartes à l'entrée. Vous pouvez voir des photos, des illustrations, des choses sur ces sujets-là. Et j'ai dû vous mettre derrière quelques exemples de choses qui peuvent se faire avec, en promenant dans des espaces naturels à différentes échelles. Donc ça, c'est à Mirbeau. C'est de l'encre de Chine et de l'aquarelle. C'est sur un petit format. Donc moi, je travaille avec des formats comme ça. C'est le format que je préconise, mais pas forcément sous forme d'un cahier comme ça. On peut très bien avoir une feuille volante, il suffit qu'on ait un petit quelque chose rigide. Ça, c'est sur des petits carnets qui sont la moitié de ce format-là, qu'on peut emmener dans sa poche, parce que le carnet de voyage, ce qui est super, c'est que vraiment, ça tient dans la poche et on peut le faire partout. Des choses qui ont été faites avec les enfants pour leur donner un petit peu des idées au bord du Clain. Donc l'aquarelle faite très vite, très diluée. Là où tout le monde était assis dans le champ de... C'était pas des pommes de terre, mais tout à l'heure. Donc voilà le paysage qu'on avait, la plaine de Niort, uniquement à l'encre de Chine. Des ateliers qu'on a faits autour du Maine-et-Loire dans des... Donc là, le végétal n'est pas le sujet principal, mais... Ça, c'est du végétal autour d'une maison. Donc ça, c'est une commande d'une maison, mais il se trouve qu'elle est très végétalisée. Il y a du végétal aussi chez les fleuristes. Ah oui, petite parenthèse, je fais pas que du végétal. J'adore dessiner des librairies, des magasins, des garages, un tas de choses. Voilà. Vous pouvez aller voir sur Croctou, vous verrez plein de choses. Des bibliothèques, oui, tout à fait. J'ai même fait des ateliers dans une médiathèque à Celles-sur-Belle l'année dernière. En voyage à Rome, en mangeant au restaurant, en Toscane. en Inde, à côté de Niort. Je vous emmène par la fenêtre de ma cuisine en hiver. Même chose dans le Poitou. Donc, avec des techniques différentes, en fait, c'est du feutre-pinceau. Donc, on peut utiliser vraiment ce qu'on veut. Et justement, les enfants sont très, très créatifs, en ce sens, donc sont capables de dessiner avec beaucoup de choses. Donc ça, un petit aquarelle fait très rapidement au triangle d'or pour leur faire voir comment on pouvait mettre en couleur, parce qu'en plus, il s'est mis à pleuvoir. Donc on est revenu, j'ai refait le dessin très vite, et puis je leur ai fait voir pour qu'ensuite ils puissent faire de la couleur. Et là, dans le même jardin avec deux autres classes, j'ai fait deux fois l'exercice, vous allez voir. Même chose, on est allé, je leur ai expliqué, ils ont construit, j'ai un petit tableau blanc, voilà, ils font leur propre dessin. Et puis on est retourné en classe, et là on a fait de la mise en couleur, on avait le temps de faire les deux. Et donc je leur ai fait avec un outil qu'ils utilisent eux, plus que mon aquarelle à moi, qui est parfois un peu difficile pour un enfant à transporter, c'est des craies diluables à l'eau. C'est pas des craies grasses, c'est des craies, des water solubles. Donc on peut faire vite un petit effet rigolo, y compris le petit nuage. Je leur ai appris à faire un petit nuage dilué avec la craie et puis le pinceau, un petit peu d'eau. Voilà. Donc on s'amuse beaucoup, surtout moi, dans le même parc, avec la deuxième classe, la même démonstration. Une petite serre au parc de la Tête d'Or à Lyon. En Inde, là c'est du végétal et de l'électrique. Vous reconnaissez nos jolis têtards du Marais Poitevin. Juste deux petites images que j'ai fait pour illustrer la carte. Ma carte que vous trouverez, j'ai posé les cartes parce que je suis dans le programme, mais j'ai fait des petites cartes comme ça avec un petit arbre pour que vous vous rappeliez de moi. À l'aquarelle, on travaille en couches successives et en transparence. Donc j'explique ça, je montre ça. Voilà, c'est pas de la gouache, l'aquarelle, c'est quelque chose de plus subtil. Et même les enfants comprennent ça, y arrivent, et c'est chouette comme tout. Du détail, on peut dessiner du détail dans son jardin, encore une fois, sans avoir la prétention de faire du dessin aussi beau que les dessins du XVIIIe siècle. Mais assez rapidement, on peut faire des trucs sympas. Quand on était aux Trois Cités l'année dernière, un exemple au bord du Clain, donc on construisait un paysage, donc j'apprends à construire le paysage, les règles de perspective, etc., même sur un paysage de composition, de son dessin. Et puis ensuite, deuxième partie de l'atelier, ils faisaient une petite collection de végétaux qui étaient à proximité au bord de la... Voilà. Et on a eu celui-là, par exemple, est assez sympa parce que je le trouve qu'il était en très bonne voie. Donc on a eu des choses très chouettes. Juste cette petite tomate pour vous dire que ce week-end, il y a la fête de la tomate à Coué, à l'abbaye de Valence. Alors moi, j'y serai, j'expose des voitures fleuries, c'est encore autre chose, mais parce qu'il y a une expo d'art en même temps. Mais il y a la fête de la tomate, c'est un truc super qui existe depuis 4 ans. Il y a des dizaines, non, c'est trop peu, des centaines de variétés de tomates, on peut déguster, il y a des jeux, c'est extraordinaire, c'est superbe. Donc je vous invite à y venir ce week-end, notamment dimanche. Bon, crayon aquarellable, même chose, donc les citrouilles dans mon jardin. Avec un petit garçon qui a fait un stage, je fais des stages l'été sur 3 jours, de 7 à 77 ans, et un petit garçon qui a... Alors il n'a pas réussi à tenir les 3 jours, parce que c'était quand même intense, mais il est venu un jour et demi, il a adoré, et puis à un moment donné, il m'a dit... Bien, Michel, on va dessiner avec les fruits et tout ce qu'on trouve sur place, donc avec les murs. Bon, encore quelques petits dessins, voilà, j'ai terminé. Puis on peut même dessiner la nature qui envahit, qui détruit la ferraille. Et vous trouverez ma carte à la sortie, je vous remercie.
Merci beaucoup, voilà, désolé pour le timing. Donc voilà, des idées, des ressources, donc n'hésitez pas à contacter Croctou. Voilà, je pense qu'il a plein d'idées et que pour explorer le thème des plantes, vraiment, comme on aime à le faire, de façon transdisciplinaire. Voilà. Écoutez, on va poursuivre, donc si vous voulez bien, avec, je vais appeler donc Véronique et Bruno pour la présentation des ouvrages.
Et je ne sais pas si votre présentation ou là on parfait. D'accord, parfait, merci. Je revêtais juste votre nom, vous signez si vous êtes d'accord. Hein. On peut mettre juste en ligne. Ça c'est vrai qu'avec vous, il faut mieux de voir l'image. Quoi. Après, ce sera juste une demandation, parce qu'il y a plein de gens qui vont éventuellement tomber sur vous comme ça. Et merci. Hein. Non mais là, c'est vrai que la journée est un peu longue, il y en a beaucoup qui ont des kilomètres, donc je me suis permis de vous faire signer. Excusez-moi, mais c'est important. C'était très beau. Hein. C'était très beau.
J'ai pris un roman aussi.
Tu veux commencer ?
Comme tu veux.
Allons-y.
Puis je présente un tout petit peu la librairie.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Je suis en train de voir qu'il y en a qui se resservent de la tisane, donc il en reste peut-être, je ne sais pas. Voilà, pour les amateurs, hein, c'est les fonds de tisane pour tenir le coup, énergisante. Donc, je remercie donc Véronique Gauduchon, comme je vous l'ai dit en début de matinée. Donc, un grand, grand merci pour sa participation à la Science ce Livre cette année. C'est vrai que le thème, les végétaux, voilà. Donc, elle nous a aidé vraiment à faire la bibliographie. Aujourd'hui, elle est présente avec le stand. J'espère que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil pour découvrir les ouvrages. Et puis là, donc, elle va nous faire part de ses coups de cœur. Et voilà, donc il y aura ensuite Bruno donc, et Sarah Budaï qui, lui, d'habitude, nous présente plutôt le côté roman. Donc je ne sais pas si ça l'a inspiré, le thème des végétaux, mais habituellement, tout l'inspire, donc je ne suis pas inquiète. Donc je vous laisse tout de suite la parole. On va essayer de tenir une heure pour ceux qui ont des parcs-mètres, comme ça. Et après, juste pour ceux qui voudront, les expositions sont visibles en accès libre si vous voulez jeter un œil avant de partir.
Eh ben bonjour à toutes et tous. On a mangé ensemble, donc j'en ai vu quelques-uns. Je suis ravie d'être avec vous. J'ai mis quelques ouvrages sur une table là-bas que certains ont vu. D'ailleurs, c'est au grand air là-bas. J'ai une confiance totale hein, dans l'espace Mendès France et les gens qui le fréquentent. Donc je suis la librairie, donc Véronique Gauduchon, j'ai un nom également. Et j'ai donc la librairie La Bruyère Vagabonde, qui est une librairie spécialisée, enfin je dirais thématique, plus que elle est spécialisée, mais le terme spécialisé voudrait dire qu'on a des choses extrêmement pointues, alors qu'il y a effectivement du pointu, mais il y a aussi de ce qu'on peut dire du grand public, voilà, pour tout le monde. Donc thématique sur la nature, le jardin, l'environnement, l'éco-habitat, la cuisine saine et gourmande, la santé naturelle. Enfin, tout ce qui tourne autour de la nature, les voyages nature, le dessin nature, etc. À la fois des livres techniques, pratiques, des beaux livres, mais aussi des romans, des nouvelles, des essais, de la littérature dans ces thématiques-là, adultes et jeunesse. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, comment vous dire ? Dans mes 35 mètres carrés, j'ai 5000 bouquins, 5000 titres à peu près dans ces thématiques-là. Et puis, Christine et Nadja m'ont dit, il faut faire une sélection pour la bibliographie. Alors, j'ai commencé, fait une sélection par thème. On m'avait donné des thèmes, donc je fais une sélection. Ouais, super, merci, bien reçu, je regarde ça demain. Bon, je regarde ça demain, petit message. Mais Véronique, il y en a 10 fois trop. Il faut que tu coupes. Je coupe, j'ai coupé. Hein, j'ai coupé, voilà. Ça vous a donné à peu près, qui a été encore recoupé, je pense encore un peu, la bibliographie que vous avez sans doute eue de ce matin. Et puis après, on m'a dit, il faudra venir présenter. Mais là, 5 ou 6. Ah, au secours. Donc il a fallu que je vous trouve 5 ou 6 bouquins. Comment vous dire, c'est extrêmement frustrant, quoi, globalement. C'est à peu près ça. Voilà, donc j'en ai pris 5 ou 6, et puis, parce que je les aime tous. Je suis libraire indépendante. Et indépendante, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je choisis tous les ouvrages qui sont dans ma librairie, un à un. Et tous les ouvrages que j'ai, je les aime. Et je veux faire en sorte de les faire découvrir. Donc c'est vrai que vous en présentez que 5 ou 6, c'est court. Hein. Mais on y va quand même. Alors vous avez vu que dans les listes, où vous regarderez chez vous tranquillement, hein, les listes, ça a été un peu classé. Donc tout ce qui est un peu plutôt guide et flore, tout ce qui est autour de la botanique, etc. Donc je vous dirai quand même, mais vous devez bien le savoir, par exemple, tout ce qui est dans les guides, et dans tout ce qui est guide naturaliste, il y a un éditeur incontournable qui sont les éditions de La Chaux-Niesselet. Je pense que dans vos librairies, vous pouvez tous les avoir en fermant les yeux. C'est de la qualité, c'est du bon outil de vulgarisation scientifique. Il y a les éditions Biotope, donc je vais également, c'est un des beaux ouvrages que je vais vous présenter là, les éditions Biotope, les éditions Belin. Dans tout ce qui est guide de sensibilisation, de détermination, etc. Ce sont vraiment les éditeurs incontournables. Et Ulmer aussi se met de plus en plus à la diffusion de la vulgarisation scientifique de nature. Surtout jardin, bien entendu, on les connaît sur le jardin, mais également aussi, ils commencent à faire un petit peu, par exemple, les poissons, les choses comme ça. Donc, ils arrivent un peu sur ce terrain-là. Mais c'est vraiment les éditeurs, les meilleurs, quoi, les premiers en qualité. Alors l'ouvrage que je vais vous présenter tout de suite, ce sont donc les plantes au rythme des saisons, un guide d'observation phénologique, c'est-à-dire l'observation des stades de développement, et là en l'occurrence ce sont des arbres, tout au long de l'année, pour pouvoir faire leur détermination. Donc c'est assez particulier, c'est-à-dire que c'est pas un guide des arbres où on voit l'arbre, la feuille, le fruit, etc. Là c'est l'évolution de l'arbre tout au long de l'année, pour pouvoir déterminer, l'identifier et surtout mesurer son stade de croissance. Et donc c'est extrêmement intéressant. Donc on a la floraison, le développement des bourgeons, la maturation des fruits, la coloration des feuilles pour chaque espèce d'arbre qui est présentée. Donc cet ouvrage se compose en 3 chapitres. Le premier chapitre, il explique tout ce qui est le cycle de l'arbre, les facteurs liés qui influencent le déroulement de ce cycle. Donc comme je vous dis, les bourgeons, les fleurs, etc. Le deuxième chapitre, il explique comment faire ces observations phénologiques de façon bien précise. Évidemment, quand vous vous baladez, que vous déterminez un chêne, un frêne, ben voilà. Mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin, il y a des méthodes pour faire ces observations et surtout les noter de façon fiable pour pouvoir à la fois les réutiliser et aussi que ça serve. Parce que l'idée de cet ouvrage aussi, c'est un peu de la science participative, c'est de partager ces informations pour une meilleure connaissance qui est distillée à tout un chacun, et aujourd'hui par les réseaux internet c'est d'une grande facilité. Donc c'est très intéressant également ce deuxième chapitre. Et le troisième, qui fait évidemment les 3/4 de l'ouvrage, ce sont les 79 espèces qui sont présentées, avec donc toutes les clés pour observer leurs cycles vitaux, l'écologie, la répartition, la feuillaison, la floraison, la fructification, le calendrier phénologique, donc tout au long de l'année, quels sont les stades sur lesquels ils sont, etc. Avec des textes qui sont extrêmement clairs, bien précis, scientifiques, c'est sûr, mais avec du vocabulaire accessible à tous. Ils ont fait en sorte d'avoir un vocabulaire précis. Bon, il y a évidemment un glossaire, mais sans rentrer dans des termes imbuvables pour tout un chacun. Donc, ils sont vraiment restés dans un ouvrage à l'attention de tout le monde. Les photos sont d'excellente qualité. Et il y a régulièrement, sur par exemple le châtaignier, donc des aquarelles qui accompagnent pour mettre plus en exergue certains points de la plante. Et vraiment, ce sont des fiches extraordinaires pour déterminer toutes ces espèces-là. Donc, comme je vous disais, cet ouvrage, il encourage vraiment à participer à des programmes de sciences participatives tels que l'Observatoire des saisons. Il y a un observatoire, si vous tapez Observatoire des saisons sur Internet, vous retrouverez ça. Ce sont d'ailleurs 9 chercheurs de cet observatoire qui ont réalisé cet ouvrage, que je vous encourage à avoir dans vos bibliothèques. Et l'éditeur, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les éditions Biotope, qui est vraiment une maison d'édition de référence spécialisée en édition naturaliste, et qui est en partenariat extrêmement étroit avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Voilà, donc celui-là, ne pas le louper. Il est, en plus ça, extrêmement plaisant à regarder. Je vous dis, les photos, les aquarelles sont magnifiques. Et ce sont les arbres de chez nous. Hein, c'est pas, on n'est pas dans l'arbre exotique, même s'il y a certains arbres qui sont comme l'arbre de Judée, qu'on a beaucoup dans les jardins, mais qui est très particulier, parce que si vous connaissez un peu l'arbre de Judée, il a les fleurs qui apparaissent avant tout le reste et directement sur les branches. C'est très étonnant, vous regarderez ça. C'est un arbre qui est tout violet au début du printemps, là. Et donc, ils ont mis quelques arbres comme ça plutôt de jardin parce qu'ils ont effectivement une morphologie qui est très particulière. Voilà. Donc, à ne pas louper. Je le redis, les plantes au rythme des saisons, guide d'observation phénologique aux éditions Biotop. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis.
Mais circuler ou tu veux que tu n'aies pas de l'animer ?
Christine va faire le
mettre. Je fais la pendule parce qu'on s'est dit qu'on se donnait 5 minutes chacun, mais la présentation, je ne la fais plus. Je fais que mon mémoire.
Alors, petite présentation rapide. Donc, moi, je suis Bruno Essard-Budaï. Je travaille à l'ALCA. L'ALCA, c'est la nouvelle agence, qui rassemble, depuis la fusion des régions, le Centre du Livre du Limousin, Éclat-Aquitaine et Feu, le Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes. Voilà. Donc, moi, je suis à ALCA, à Poitiers. Et je m'occupe du patrimoine écrit et du numérique lié au patrimoine écrit. Donc en gros des vieux livres poussiéreux et des nouvelles technologies. Et donc avec Christine, on s'est dit que pour cette année, on allait faire un petit peu différemment. Et on en a discuté avec Véronique et on s'est mis d'accord pour dire qu'on allait alterner chacun... à présenter nos ouvrages préférés. Donc moi, je vais plus vous parler de romans, et je me suis dit que au lieu de me perdre dans la vastitude littéraire des romans qui parlent des plantes, des forêts, etc. Et comme il y avait un petit peu d'actualité là-dessus, j'allais me cantonner sur l'Amazonie. Donc le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est un roman policier qui s'appelle Amazonia, parce qu'il fallait pas bien commencer avec le titre de la sélection de livres. Amazonia, c'est écrit par James Rollins, c'est un écrivain américain qui fait surtout des thrillers qu'on trouve surtout en tête de gondole, avec des Américains super forts, super armés, super géniaux qui sauvent le monde toutes les 5 minutes. Donc il a une série comme ça qui s'appelle La Force Sigma. Je ne sais pas si vous en avez dans vos bibliothèques. C'est, en général, c'est quand même plutôt bien écrit et l'intrigue est assez intéressante parce que c'est toujours une intrigue scientifique. Ce qui est particulièrement embêtant par contre et gênant à force, c'est que ces Américains, vraiment, s'ils n'existaient pas, on aurait un petit peu plus la paix sur Terre. Mais enfin bon, ils sont là, ils sont héros de livres et on les retrouve dans Amazonia, avec la seule différence, c'est qu'Amazonia, c'est un livre... Un peu atypique dans sa production, parce que c'est pas les héros récurrents habituels. C'est juste une histoire qui se passe en Amazonie. Alors la dévoiler, c'est assez compliqué, parce que c'est une histoire qui commence un peu comme un roman d'exploration classique. Un groupe va à la recherche d'une expédition qui s'est perdue dans la forêt vierge. Et petit à petit, le roman dérive dans une espèce de science-fiction, de roman fantastique, où commencent à apparaître des animaux bizarres, des peuples étonnants, etc., liés à des expérimentations qui ont été faites par les méchants savants. Donc on a toute une ambiance un peu qui pourrait ressembler au roman populaire de la fin du 19e, début du 20e, au début de la science-fiction, comme ça, avec des choses étranges, des choses bizarres, des choses
qu'on connaît pas dans des contrées encore vierges de toute pénétration occidentale, etc. Donc je l'ai choisi parce que d'abord pour le titre parce que ça ouvrait bien la sélection et puis en plus parce que c'est distrayant et il y a une vraie réflexion sur ce qu'est la forêt, sur l'exploitation de la forêt, sur pourquoi il faut la protéger et finalement on passe un bon moment. Alors, ça a été publié il y a quelque temps, mais on le trouve encore. Là, j'ai l'édition Pocket. Je sais que les bibliothécaires n'aiment pas trop les livres de poche. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais c'est un autre débat.
C'est plus fragile.
Non, c'est parce que j'ai été longtemps aussi bibliothécaire, donc je peux me le permettre. Mais oui, ça existe encore en grand format. On peut le trouver de toute façon. Voilà.
Alors, je vais rester dans les flores. J'avais envie de vous faire voir cet ouvrage qui s'appelle, que vous devez pas trouver, vous n'avez pas dû trouver dans beaucoup de librairies, parce que je pense que je suis allée le chercher un peu loin, qui s'appelle Flore des friches urbaines. Je pense que vous devez connaître celui-là, qui s'appelle Sauvage de Maru, qui s'est énormément vendu, qui a été, en fait, justement, c'était aussi des sciences participatives qui étaient sorties à cette époque-là d'un lancement d'un inventaire par le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc le principe étant de faire l'inventaire des fleurs sauvages de ma rue, donc de la ville, voilà, qui échappent aux désherbants, aux tondeuses et autres bitumes. Il se trouve qu'il y a un autre ouvrage que je trouve qui est dans le même esprit mais plus complet, quand on a envie d'aller un peu plus loin, qui s'appelle donc Flore des friches urbaines, qui est très intéressant également et qui est dans la même veine et qui aussi apporte la connaissance de toutes ces plantes et alors qui sont classées, c'est très intéressant, donc par type de milieu, par famille, mais par type de milieu. Donc vous avez les interstices minéralisés, les milieux pionniers, la friche, les prairies, le gazon, les fourrés, les boisements, les berges et les zones humides, ce qui permet d'aller plus rapidement dans tel et tel milieu, même à l'intérieur de la ville. Et donc les clés de détermination qui sont... Il y a tout un chapitre sur les clés de détermination, donc ça permet d'aller avec plus de précision sur les espèces qui sont plus nombreuses dans cet ouvrage. Donc d'avoir un petit peu d'ouvrir son regard encore un peu plus sur tout ce qu'on trouve à la ville. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il y a un chapitre photographique sur les plantes en hiver, qui est quand même... aussi une chose qu'on voit de temps en temps et qu'on se dit, oh là là, cette plante-là, mais c'est quoi ? Donc c'est très intéressant, même s'il le présente, ce chapitre-là, comme quelque chose d'une ébauche, d'une flore d'hiver, parce que c'est évidemment pas complet, mais c'est un gros plus dans cet ouvrage. Donc moi, je vous conseille cet ouvrage, qui en plus est très solide, vous avez vu, il est dur, hein, donc c'est bien pour les bibliothèques. C'est édité au Xavier Barral. Et les auteurs, c'est Audrey Muraté, Mire Muraté et Marie Pelaton. Voilà. Je pense qu'il doit être dans la liste, parce que je ne suis pas sûre d'avoir pris les ouvrages de ma liste tout le temps. Hein. Voilà. Mais je pense qu'il doit y être. Donc je vous le fais passer. C'est un très bon bouquin. Là, j'ai été courte.
Juste pour préciser, tous les livres dont je parle, sauf le dernier, sont dans la petite biblio qui était dans les jolies petites chemises que vous avez eues ce matin. Donc ensuite, pour poursuivre la petite exploration en Amazonie, j'ai fait une petite sélection d'auteurs sud-américains, et notamment parce que il y a un groupe d'auteurs sud-américains qui s'appelle l'école des écrivains amazoniens. Donc ils sont tous issus de la région de l'Amazonie, alors pas forcément que du Brésil, hein, parce que l'Amazonie c'est aussi un bout de la Colombie, du Venezuela, de la France aussi, enfin de la Guyane. Et voilà, donc l'un des plus anciens représentants de cette école, de ce groupe, c'est Márcio Souza. Donc qui lui est brésilien. Il a écrit un bouquin qui avait pas mal marché en France dans les années 80, donc c'est un petit peu vieux, je sais, mais qui s'appelait Mad Maria, qui est réédité, hein, qui est chez Métayer maintenant, qui est constamment réédité. Mad Maria, ça racontait en gros l'histoire d'un ingénieur qui traçait une ligne de chemin de fer dans la forêt vierge. Bon, je vous passe les détails sur l'horreur des conditions de travail, l'exploitation des Indiens, etc., etc., etc. Et il en a écrit un autre, traduit en France, hein, qui s'appelle L'Empereur de l'Amazonie, alors qui est aussi réédité chez Métayer. Et moi, j'ai la vieille édition, mais on la trouve très jolie aujourd'hui chez Métayer. Et qui raconte l'histoire d'un gars qui fait fortune, qui part de rien et qui fait fortune avec le caoutchouc, donc au début du XXe siècle, puisque le caoutchouc qui servait l'industrie naissante de l'automobile n'était produit qu'au XIXe et au début du XXe, qu'uniquement en Amazonie. Et donc, il raconte la montée en puissance de cet empereur du caoutchouc qui va tout perdre. Vous savez, c'est tiré de l'histoire vraie du caoutchouc. Hein. Donc, l'Amazonie gardait jalousement le monopole du caoutchouc dans son territoire brésilien. Il était interdit d'exporter des graines sous peine de prison, pendaison, décapitation, etc. Et il y a un Anglais qui a réussi à faire sortir 30 000 graines d'EVA et qui est allé les planter en Malaisie, je crois. Oui, en Malaisie. Et alors qu'au Brésil, la production n'était pas organisée, hein, parce que les esclaves du caoutchouc se promenaient dans la forêt pour signer les arbres, les Anglais ont tout organisé dans des plantations, et en quelques années, ont coulé complètement le caoutchouc brésilien. Et voilà. Et donc c'est l'histoire de la montée en puissance et de la chute de cet empereur, mais écrit. Alors c'est assez sympa comme c'est écrit, parce que on le voit là, ce sont des courts petits textes, petits chapitres. C'est drôle, iconoclaste. C'est une leçon d'histoire, d'humilité, et ça fait. En tout cas, quand c'est sorti, c'était vraiment une bouffée de fraîcheur dans la littérature romanesque.
Alors, je voulais vous présenter un petit ouvrage que j'aime beaucoup. C'est pas un ouvrage technique, je marche sur la plate-bande de mon voisin. C'est de la littérature. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'avez vu, mais si vous ne le connaissez pas, il faut le lire. L'avoir. Voilà. Le maire qui aimait les arbres. C'est édité Actes Sud, c'est dans la collection du domaine du possible. Vous savez, cette collection qui donne des exemples concrets d'actions pour rendre la société meilleure. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est, je dirais, à la fois un conte et un manifeste politique. C'est très engagé et très engageant, je dirais. Le maire qui aimait les arbres, c'est une nouvelle qui nous fait du bien. On pourrait dire que c'est un petit peu à l'eau de rose, c'est du positivisme un peu superflu. Eh bien, moi, je trouve pas du tout. Et s'il nous fait rêver à un monde meilleur, ben, je trouve qu'il faut se laisser aller, hein, faut le lire. Donc, la petite histoire, c'est un maire qui s'insurge contre le phénomène d'isolement de la population de sa ville. Il a toujours vécu dans cette ville et il se rend compte, alors qu'il est maire, que les choses ne sont plus comme avant en termes de sociologie et en termes de... il y a des disparités d'un quartier à l'autre, etc. Il y a du vandalisme, etc. Donc il s'interroge, il observe, et en homme altruiste et attentif, il découvre que l'arbre, jadis, au cœur de la cité, a cédé la place au bitume. En disparaissant, c'est l'espace de déploiement du lien social qui a disparu. Et c'est ainsi qu'il entreprend, petit à petit, avec ses équipes, avec un ange gardien du projet qui est une paysagiste, à reboiser, à redonner la place à l'arbre dans sa ville, petit à petit, mais il entreprend vraiment des grands, grands, grands travaux pour redonner vraiment un autre milieu aux habitants. Donc c'est planter des arbres dans sa ville, recréer des corridors verts, des couverts verts. Il ne fait pas ça du tout dans un geste égoïste, il est vraiment
Il ne suit pas de plan politique, il n'en a rien à faire. Il veut redonner à sa ville le bonheur d'y vivre. Et il donne à ses habitants des lieux de vie, de partage, aux piétons des abris en plein été, à l'ensemble de sa ville une végétation capable de rafraîchir l'atmosphère et de l'assainir. On comprend juste d'ailleurs à la lecture de ce livre que ça se passe dans le sud, vers Arles ou dans ces coins-là, parce que on sent qu'il y a de la chaleur. Et puis petit à petit, il emmène tout ça au-delà de la limite de sa ville, parce qu'il embarque aussi d'autres communes à côté. Et au final, en fait, ça fait vraiment réfléchir à cette société qui est individualiste aujourd'hui et qui, là, en fait, une municipalité ouvre son regard pour le bien-être au quotidien des habitants. Et puis, ça réussit dans cette lecture, ça réussit. Et il se passe plein de choses très intéressantes, même si ça combat, ça bataille. Mais je trouve que c'est très intéressant. Elle est positive, cette nouvelle. Elle est vivifiante. Elle donne envie d'y croire. Et puis on se dit que ce serait vachement bien si c'était comme ça dans toutes nos villes. Hein ? Voilà, donc je vous engage vraiment. Et ça se lit très facilement. C'est très marrant parce que c'est une petite nouvelle, c'est un petit roman. Hein. Il n'y a jamais de nom de personnage, en fait, ce serait superflu. Mais on comprend tout ce qui se passe, ce qui se trame entre les gens qui ont des personnalités très fortes. Et c'est vraiment une jolie petite nouvelle qui fait du bien dans ce monde de brutes.
Bon, je vous ai raconté que...
J'ai pas dit qui il était. Hein. Quand même, il y a quelqu'un qui l'a écrit. Hein. C'est Jean Chalandas. Quand même, faut rendre avec... voilà, faut l'avoir chez soi.
Je vous ai raconté le début de l'histoire du caoutchouc, mais en fait, l'histoire, elle n'est pas terminée. Parce que si les Anglais prennent les graines d'EVA, il y a quelqu'un qui a toujours un gros problème, c'est Henry Ford, le constructeur de voitures, parce qu'il n'est pas anglais. Et que les Anglais ne veulent pas filer du caoutchouc aux Américains. Donc, Henry Ford, il a une idée géniale. Je vous rappelle le personnage quand même, hein, Henry Ford, patron d'industrie aux États-Unis, antisémite et nazi. Il est à l'origine des thèses d'eugénisme, notamment. Quelqu'un de pas vraiment sympa. Et il a une idée géniale, c'est d'aller, puisque le caoutchouc ne peut pas venir à lui, c'est d'aller là où est le caoutchouc. Donc il va fonder une ville en pleine forêt amazonienne. Il défriche des milliers d'hectares, massacre quelques centaines de tribunes pour installer sa ville qui s'appelle Fordlandia, d'où le titre du roman de Deré, il va se mettre à planter des EVA pour pouvoir récolter du caoutchouc et faire tourner ses usines de voitures. Et alors je vous raconte pas la fin parce que, mais comme vous le savez, Fordlandia ça n'existe plus, donc c'est qu'il s'est passé quelque chose de tragique. Mais le livre décrit en fait toute l'histoire. Alors, c'est dans la collection Polar de chez Rivage, hein, donc il y a une intrigue derrière, mais qui est assez mineure. Le plus intéressant, à mon sens, c'est l'histoire de la ville de Fordlandia. Mais Doré, c'est un auteur de Polar. Hein, c'est lui qui il a beaucoup écrit sur l'Afrique, notamment. Black Cendrillon ou Tout Bab or Not Tout Bab, des polars qui se situent plutôt Côte d'Ivoire, Sénégal, Afrique de l'Ouest. Là, il a traversé l'Atlantique pour aller au Brésil. Mais l'intérêt, c'est vraiment l'histoire de la création de la ville et après comment la forêt reprend ses droits, finalement. Et il existe d'ailleurs un reportage qui a été fait il y a quelques années sur Fordlandia aujourd'hui et qui montre ça doit faire 80-90 ans que Fordlandia n'existe plus, mais il y a toujours évidemment les vestiges dans la forêt vierge et c'est assez étonnant de voir ça. En tout cas, avec Deré, on n'est pas déçu en général, hein, c'est quelqu'un qui écrit bien, qui sait faire monter le suspense, et c'est c'est un polar qui fonctionne très bien en même temps. Quoi.
Je vais faire tourner.
Ah oui, pardon, je n'ai pas fini.
Oui.
Parce que toujours sur l'histoire du caoutchouc, pour finir.
Sur le caoutchouc.
Sur le caoutchouc. Il y a l'extraordinaire bouquin de Vargas Llosa qui est sorti, c'était en 2011, hein, déjà,
ah, oui,
2011 déjà, Le rêve du Celte, qui raconte l'histoire véridique de Roger Casement. Roger Casement, c'était un Anglais, un consul anglais. Bon, pour des histoires géopolitiques aussi, mais on lui a demandé de faire un rapport sur le Congo belge. Et en fait, le rapport de Casement est complètement à charge. Il raconte toutes les atrocités des Belges au Congo, notamment l'épisode des mains coupées. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce truc-là, mais en fait, quand un enfant faisait une bêtise, mais même mineur, on lui coupait une main ou deux. Un noir, hein, un enfant noir, évidemment. Et voilà, donc Casement dénonce tout ça. Alors on est à la fin du 19e. Évidemment, Léopold, le roi belge, prend ça très mal. Mais ce rapport Casement, en fait, il participe à faire la lumière sur toutes les atrocités de la colonisation en Afrique. Et quelques temps plus tard, Casement est anobli, il devient sœur Roger Casement. Il est irlandais hein, d'origine. Il devient sœur Roger Casement et le gouvernement anglais lui demande de faire le même type de mission en Amazonie. Et ça va être un des tout premiers à décrire le massacre des Indiens de la forêt amazonienne, la surexploitation de la forêt, etc., etc. Et pour finir l'histoire de Casement, pour le remercier, les Anglais vont le pendre quelques années plus tard. Je résume, hein, mais il a été réellement pendu. Il a été réhabilité. Il a été pendu parce qu'il était indépendantiste irlandais. Et il a été réhabilité il y a quelques années. Aujourd'hui, en Irlande, il y a plein de lycées, de collèges et de bibliothèques qui portent son nom. Mais sous la plume de Vargas Llosa, c'est tout simplement... j'aime pas trop l'idée de dire quand vous entrez dans le bouquin, vous pouvez pas en sortir. Mais là, vraiment, c'est ça, quoi.
Ça arrive. Hein.
Ouais, ça arrive. C'est assez rare et
ça marche vraiment très bien.
Alors, ben moi, c'est vachement plus léger ce que je vais vous raconter. Hein. Y a pas de pendaison. C'est un de mes petits coups de cœur depuis les sorties il y a 2 ans, cet ouvrage, peut-être que certains le connaissent, qui s'appelle « Plantes vagabondes » aux éditions Mémo, par Émilie Vaste. Vous devez avoir sans doute des ouvrages d'Émilie Vaste avec sa plume très particulière, hein, cette graphiste qui est photographe illustratrice, et je pense, c'est pas mis dans sa bio, mais je pense que c'est une naturaliste, parce que les informations qui sont distillées au fil des pages sont extrêmement justes, sans erreur, et ça je peux vous dire que dans les ouvrages pour enfants, il y en a des erreurs. Moi je sais que je les guette et je renvoie les ouvrages en général illico presto, quand il y a parce qu'il y a quand même des grossières erreurs. Là, pas du tout. Et donc, Émilie Vaste nous emmène dans cet ouvrage à comprendre le voyage des plantes. Comment elles se multiplient, comment elles... Alors, s'envoler, ramper, sauter, flotter, creuser, comment les graines se disséminent dans la nature et comment les plantes se multiplient. Il y a donc 14 voyages végétaux, comme je vous disais, donc semer, etc. On voyage avec les graines de pissenlit qui s'envolent, les fraisiers qui rampent et marcottent, les graines d'érable qui tournoient, puis c'est autour des graines de la bardane qui s'agrippent et sont transportées par les animaux, qui après ça descend un peu plus loin, ça tombe dans l'herbe, etc. C'est autour de la violette dont les graines sautent, au nénuphar dont les graines flottent. Chaque présentation est précise, extrêmement didactique, très complète. Et c'est même des petits textes de lecture. J'essayais de réfléchir à l'âge parce que je ne suis pas très douée sur le sujet. Moi, j'ai des très grandes filles ou d'une toute petite. Et je me dis que même la petite, très vite, je pourrais lui lire ce genre de livre parce que chaque texte, c'est tellement joliment écrit que c'est une petite histoire en soi. Donc, on peut le lire par morceaux
Et comme les images, regardez là, c'est comme la bardane qui s'accroche au poil du renard et qui va évidemment tomber un peu plus loin pour faire une nouvelle plante. Et puis à la fin, il est fait état, c'est très intéressant, j'ai même appris plein de choses dans cet ouvrage. Ça doit être donc pour les plus de largement, pour les soixantenaires aussi. non, mais j'ai essayé de chercher le mot. À la fin, on parle aussi des plantes d'abord qu'on peut soi-même semer, faire pousser, marcoter, etc. Et puis aussi d'où viennent les graines. Ça nous apprend aussi que la graine de la tomate, ben, elle n'était pas ici, elle est arrivée d'ailleurs. Donc il y a tout le voyage des plantes aussi qui arrive d'ailleurs. Et puis tout un vocabulaire. Alors là, je vais vous en dire un vocabulaire. Voici les noms scientifiques de tous ces voyages. Vous savez ce que c'est que l'anémochorie ? J'ai oublié. L'anémochorie, vous savez ? Je ne sais rien. C'est grâce au vent. Voilà. Anémomètre. Voilà. L'anthropochorie ou hémérochorie. Grâce à l'homme, c'est ce qui est cultivé. Etc. etc. L'hydrochorie. Grâce à l'eau. D'accord. La zoochorie. Ouais. La barochorie. Grâce à la gravité, ouais. Voilà, c'est ce qui tombe. Donc il y a du vocabulaire comme ça. Non, mais c'est vraiment un ouvrage, je le trouve absolument magnifique. Et puis je trouve que à la fois les amoureux de la nature, du jardin, ils seront comblés des sous-bois, mais même les petits curieux qui connaissent pas trop la nature, c'est tellement joliment fait que c'est superbe. Voilà. De toute façon, Émilie Vast, chez Memo, tous ses bouquins sont magnifiques. Tous. Je vous présente celui-là parce qu'il a vraiment une dimension de présentation de botanique. Hein. Voilà, c'était vraiment le sujet. Et qui poussait très très loin hein, quand même. Il hein. y a plein de choses à apprendre. Je pense que chacun ici, il trouvera quelque chose à découvrir. Et puis voilà, c'était le sujet. Mais c'est vrai que c'est une auteure. C'est vraiment très très beau. Un vrai talent au service d'une documentation, je dirais, d'exception. J'ai fini. Enfin, j'en ai d'autres, mais c'est à toi.
Alors, le livre emblématique sur la forêt vierge, c'est « Forêt vierge » de Ferreira de Castro, qui est un Portugais qui part au Brésil faire son apprentissage. Bon, l'histoire... est moins intéressante que l'histoire du livre. Enfin, l'histoire racontée est moins intéressante que l'histoire du livre. Parce qu'en fait, ce livre, il a été traduit par Blaise Sandrard dans son époque brésilienne, dont je parlerai dans quelques instants. Et ce qui est assez extraordinaire, et ce qui est très rare en littérature, c'est que quand il a été réédité au Portugal, les éditeurs, en fait, on retraduit la traduction de Sandrard. Il y a peu d'exemples de ce type, en fait. Bon, tout simplement parce que Sandrard, le poète, s'est approprié l'ouvrage et a fait vraiment œuvre secondaire. Quoi. Il se l'est tellement approprié qu'on pourrait mettre Blaise Sandrard directement dessus, quoi. Et donc, pour revenir à Sandra, alors il est toujours édité, hein, ce livre, on le trouve dans la collection Cahiers Rouges chez Grasset. Alors c'est pas tout à fait un poche, donc ça doit passer en bibliothèque. Sandra, en fait, en 1924, il est invité au Brésil pour découvrir le Brésil, initialement pour faire des reportages, mais il ne fera jamais les reportages, mais comme plein de trucs qu'il disait et qu'il ne faisait jamais. Donc c'est pas très grave. Mais il va au Brésil, il apprend le brésilien. Et puis il écrit des poèmes surtout. Au Brésil, il écrit « Feuille de route », qui est un de ses recueils les plus connus. En tout cas, la partie 1 de Feuille de route, le Formose, qui est en fait le nom du bateau qui l'emmène au Brésil. Et il prévoit 5 parties à Feuille de route, le Formose étant que la première partie. Vous savez, le Formose, c'est le recueil où on trouve un de ses poèmes les plus connus, tu es plus belle que le ciel et la mer. Quand tu aimes, il faut partir, quitte ta famille, etc. etc. Donc il écrit cette première partie qui en fait concerne plutôt le voyage qui va jusqu'au Brésil. Plus tard, quand il revient du Brésil, il publie une deuxième partie qui s'appelle Sao Paulo. Et puis il avait prévu une partie qui s'appelait Rio de Janeiro. La quatrième partie, je ne me souviens plus du nom, mais il ne l'a jamais publiée, donc ce n'est pas très grave. Et une cinquième partie qui s'appelait Brésil, des hommes sont venus, qui non plus n'a jamais été publiée de son vivant, parce qu'en fait tout le monde croyait que ce texte n'existait pas du tout. Et en fait, on s'est aperçu il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, que dans ses papiers, dans ses malles, il y avait le texte de Brésil, les hommes sont venus. Et le livre a été publié, et on le trouve aujourd'hui, chez Fata Morgana. Donc je ne l'ai pas mis dans la bibliographie, mais voilà. Donc c'est un livre de Sandrard qui. Il y a des poèmes dedans, il y a des petits textes sur le Brésil, sur ses impressions dans le Brésil, etc. Mais qui est vraiment dans la veine de Sandrard, quoi. Ça fait partie des bouquins qui ressortent. Vous savez, la fille de Sandrard, Myriam, en fait, elle a les archives de son père et elle est distillée. Enfin, elle est distillée parce qu'elle est décédée l'année dernière, mais elle est distillée au compte-gouttes de façon à, je sais pas, pouvoir exploiter le filon plus longtemps. Et il y a plein de textes de Sandrard comme ça qui sortent petit à petit.
Alors, un ouvrage qui vient juste de sortir, traduit de l'italien, Herba volant, je sais pas, ça doit être Herba volant, je sais pas, parce que je voulais rechercher, c'est de l'italien, ça doit être les herbes qui volent, je sais pas, il y en a qui font de l'italien ici, non ? Je sais pas. De Renato Bruni. De nos ouvrages sont sortis depuis quelques années hein, sur nous enseignant l'intelligence des plantes, des arbres, leur vie secrète, etc. Cet ouvrage est, on va dire, un de plus, mais il apporte encore une pierre à cette connaissance. Et puis, il nous enchante avec 9 histoires formidables sur l'inventivité, la créativité des plantes. Renato Bruni, qui a une verve assez sympathique, botaniste passionné, nous raconte un peu leur esprit pratique de certaines de ces plantes, leur sens de l'adaptation et de l'innovation. À chaque fois, il y a les preuves scientifiques. Enfin, il nous met bien en avant les points scientifiques qui mettent en avant toutes ces capacités de ces plantes. Et donc, on est complètement dans le biomimétisme, hein, sur tout ce qu'elles sont capables de faire. Grâce aux plantes, il est possible de lutter contre la pollution, de construire des bâtiments antisismiques, etc., de créer des tissus intelligents, j'en passe, des meilleurs. Donc tous ces récits se lisent, je dirais, comme un roman, tranquillement. Et la verve est, comme je vous disais, assez joyeuse, sympathique. On a bien enlevé, il nous embarque bien dans toute son aventure scientifique. Et moi, j'en ai lu, je ne l'ai pas lu entier, il est sorti, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'en ai lu une bonne moitié, mais je vous le conseille. Voilà, vraiment, ce Renato Bruni, il est, je dirais que c'est un joyeux et fin pédagogue.
Pour les fanas du livre numérique, il y en a. J'ai trouvé deux livres d'auteurs éminemment sympathiques et de la région, on peut le dire. Bon, c'est assez facile parce que pour ceux qui étaient là les années précédentes, je crois que je les avais déjà présentés, Les clés du patrimoine écrit, la bibliothèque numérique du Centre du Livre. Et pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, c'est une bibliothèque numérique où on a mis au format numérique des ouvrages d'auteurs du domaine public, du patrimoine écrit de Poitou-Charentes. Il y a 210 ouvrages qui sont disponibles libres de droit et qui sont rassemblés dans ce qu'on appelle un catalogue OPDS, c'est-à-dire qu'on télécharge le catalogue sur son smartphone, sa tablette, son ordinateur. Et en fait, on peut choisir le livre qu'on veut et après se déconnecter, lire le livre, le prêter, le donner, l'offrir, voilà, en faire ce qu'on veut, il vous appartient. Et l'ensemble du catalogue est gratuit, sans pub, sans verrou numérique, etc. Donc, il y a deux de ces auteurs qui parlent de l'Amazonie dans cette bibliothèque du patrimoine. Ce sont Jean Galmot et Louis Chadourne. Et ce qui est intéressant, c'est que Louis Chadourne a été secrétaire de Jean Galmot. Alors, je vous rassure, les livres existent aussi en version papier. Je vois où ils sont, voilà. Donc, quelle étrange histoire de Jean Galmot et Terre de Canaan de Louis Chadourne. Jean Galmot, on le connaît un peu mieux que Chadourne. Il a été député de la Guyane. Il y a eu un procès retentissant et il a été... on ne sait pas trop s'il a été assassiné ou pas. Enfin, c'est vraiment pas très clair. Mais on le connaît surtout parce que Blaise Cendrars, pour revenir à Louis encore, a écrit un livre qui s'appelle Rome et qui raconte la vie de Jean Galmot. Voilà. Donc Jean Galmot, c'était plutôt un homme d'affaires, homme politique, etc. Mais il a écrit au moins deux romans qui sont passés... qui ont traversé les siècles et qui continuent à être édités, hein, parce que ça c'est une édition tout à fait récente. Quelle étrange histoire, ça, c'est un roman en deux parties, une partie qui se passe sur un bateau qui fait route vers l'Amérique du Sud, et une partie qui se passe vraiment dans la forêt en Amérique du Sud, avec les chercheurs d'or, etc., etc. Le deuxième auteur, Louis Chadourne, c'est un auteur qui... Je suis désolé, je m'aperçois que je raconte que des histoires tristes, mais je me rattrape.
Heureusement que je suis là.
Louis Chadourne, c'était un auteur qui est né à Brive. C'est le frère aîné de Marc Chadourne. Marc Chadourne a été un auteur important de la littérature française. Hein, il est décédé dans les années 70. C'est un de ses romans les plus connus, c'était Vasco, qui se passait dans les îles du Pacifique. C'est un écrivain, un des premiers écrivains voyageurs qui pourrait être aujourd'hui à Saint-Malo au festival. Mais donc Louis, il est mort, il avait 34 ans. En fait, il a fait la guerre 14-18 à l'époque, comme beaucoup. Il a été gravement blessé et enseveli. Et en fait, le fait d'être enseveli, il n'a jamais pu se sortir de ce traumatisme. Donc il avait des coups de mieux, de moins bien, etc. Et à une époque où il a eu un coup de mieux, Jean Galmot lui a demandé de faire un voyage avec lui en Guyane en tant que secrétaire. Et en fait, Louis Chadourne en a profité pour écrire sans doute... deux de ses œuvres majeures, Terre de Canaan, qui est vraiment un roman qui se passe dans la forêt avec la ruée vers l'or dans la partie amazonienne du Venezuela, et un autre roman qui est aussi disponible, qu'on peut toujours trouver, que nous avons publié aussi en numérique, qui s'appelle Le Poteau Noir, et qui est en fait un récit de voyage, le voyage qu'il fait avec Jean Galmot dans les Caraïbes et en Guyane. Mais j'ai pas choisi Le Poteau Noir parce que ça parlait pas de la forêt, alors que je pense que, enfin, moi je préfère Le Poteau Noir, mais bon, après c'est une histoire de choix. Mais en tout cas, l'intérêt de Louis Chadourne, c'est que c'est sans doute au XXe siècle. Terre de Canaan, c'est 1920. Il a été publié en 1924, mais écrit en 22. Et c'est sans doute le premier récit de voyage moderne qu'on retrouve dans la littérature française. avant Sandra y compris, avant Jean-Richard Bloch, le poids de vin bien connu. Et donc, il a vraiment un intérêt pour ça. Et il a un second intérêt, c'est que c'est pas seulement un voyageur qui voyage et qui décrit, c'est un voyageur qui prend parti. Et notamment dans les Caraïbes, il prend parti contre le colonialisme, contre le racisme des Blancs, etc. Donc, il y a, je pense, y compris un côté d'écriture très moderne. Quand on lit du Louis Chadourne, on est assez bluffé parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui écrit aujourd'hui, quoi. Alors, les ouvrages sont disponibles en numérique, comme je vous l'ai dit. Je vous dis des bêtises, il n'est pas disponible en numérique parce que le site d'Alca n'est pas encore tout à fait au point, même s'il est en ligne. Et il y a une partie du site, dont celle du patrimoine écrit, qui n'est pas encore en ligne, mais qui va l'être tout bientôt. Et vous pourrez soit. Alors, pour les bibliothèques, elles peuvent aussi demander à Alca l'intégralité de la bibliothèque numérique. C'est un boîtier avec des clés USB dedans, des petits livrets de présentation, etc. etc. Donc, vous pouvez les réclamer à vos BDP. Normalement, elles en ont en stock.
Alors, un petit ouvrage jeunesse. Je suis une forêt, qui est une petite introduction à l'écologie, qui fait partie d'une collection que vous connaissez peut-être, donc vous avez peut-être d'autres ouvrages. Aux éditions La Librairie des Écoles, il y a Je suis une étoile, Je suis un pain au chocolat, Je suis un village. Et à chaque fois, c'est une introduction à l'architecture, à l'économie, à l'astronomie. Et là, donc, c'est une introduction à l'écologie. Et donc, c'est la petite forêt qui nous raconte sa naissance et sa vie depuis des milliers d'années où les derniers volcans se sont endormis. Et on suit ça, la progression après les volcans, comment la forêt est née et quels ont été ses amis quelque part autour. Et on découvre petit à petit toute cette écologie, je dirais, forestière depuis sa genèse. Et puis donc on découvre les arbres, mais aussi les oiseaux, les insectes, tous les animaux qui y sont. Et on aborde en fait toutes les notions de la clairière, le recyclage dans la forêt, les chaînes alimentaires, les espèces forestières, les oiseaux, les saisons en forêt, la forêt et les hommes, etc., etc. Je trouve que c'est un super petit ouvrage d'écologie à partir de je ne sais pas quel âge. Je crois quel âge on peut commencer à lire ça. Je ne sais rien, je suis nulle pour les âges. J'assume totalement. Mais je pense que, oui, voilà, à partir du moment où... oui, moi, je dirais 7 ans, oui, quand on commence à bien lire. Voilà. Parce qu'il y a plein de notions qui sont compréhensibles même avant de savoir lire, en étant accompagné. Mais l'illustration est jolie. Oui, accompagné, ça marche très bien. Et donc, il y a toute une collection qui est, je trouve, toujours très intéressante. Je vous ai cité 3 autres titres, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Moi, je vais vite. Après, j'en ai plus qu'un.
Ouais, mais comme ça, on ne se fera pas disputer par Christine, parce qu'on aura respecté
on est
le temps.
Bien.
Ouais. Comme j'ai un peu de temps, j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure, en parlant polar. Ouais, j'en ai un dernier.
Oui, moi aussi.
Bon, alors ça va. J'ai oublié de vous signaler qu'il y a quand même une maison d'édition qui est très spécialisée en polar et nature. C'est Gellmeister. Alors, c'est vrai que ce sont...
Et drames aussi. Hein.
Oui, et drames aussi. Oui.
Ça devient de plus en plus lourd, moi, je trouve. C'est très bon, c'est de la belle littérature, mais... Oh là là là.
Et donc, ça, il y a quand même toute la veine du polar, je sais pas comment on dit, naturel, naturaliste, autour de la nature, avec les mecs qui pêchent à la ligne, à la mouche.
Ah oui, ceux-là, ils sont
très
bien, d'ailleurs.
Ils sont dans la forêt, etc. Et il y a quand même, dans cette maison d'édition, ils ont récupéré, par exemple, James Crumley. Alors ça, c'est noir, évidemment, c'est très noir, James Crumley. Ils ont récupéré James Carlos Blake, qui est pareil, un auteur. Ils ont sorti, en mars-avril, ils ont sorti le dernier de James Carlos Black, justement. Voilà, il y a vraiment une vraie... Je ne sais pas si c'est une tradition ou un parti pris, en tout cas, de ce type de polar très proche de la nature, souvent perdu dans des coins du Montana.
C'est la nature writing. Hein,
ouais, c'est
la nature
ça, writing ouais. Mais au dans le polar.
Oui, voilà. Bah, là, ça peut être dans le polar et dans autre ouais, chose, ouais. Mais c'est vraiment toujours dans ouais, des grands espaces. C'est pour ouais, ça que moi, j'avais beaucoup de leurs titres, mais je trouve qu'au fil des années, ils sont de plus en plus noirs. Ça peut être un polar pas trop noir. Hein.
Oui, mais c'est plus un polar après. Donc, alors, j'ai commencé par un polar noir qui s'appelait Amazonia. Donc, je vais terminer par Amazonia, qui est pas un polar d'ailleurs, qui est le dernier roman de Patrick Deville. Alors, je dis roman parce qu'il a mis roman dessus. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un roman ou pas. C'est pas très grave à mon avis. Le pitch, un peu, c'est que Patrick Deville voyage en Amazonie avec son fils et il parle de plein de trucs. Voilà. Mais l'intérêt, c'est qu'il ne parle pas que de son nombril, ce qui est rare. Parce que la grande mode, quand même, chez les écrivains voyageurs, c'est de se raconter. Quoi. Je me suis coupé le doigt avec la boîte de conserve, voilà, des blagues comme ça. Ouais. Mais enfin, je ne sais pas si on en a grand-chose à faire. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais, Deville, l'intéressant, c'est que en fait, tous les bouquins dont je vous ai parlé tout à l'heure, il les convoque tous dedans. Et en fait, son voyage, c'est un prétexte à la littérature autour de l'Amazonie. Et on découvre comme ça, alors des auteurs connus, hein, il parle de Sandrard, il parle de Marcio Souza, il parle de Vargas Llosa, etc. Mais aussi plein d'auteurs, évidemment, dont on n'a jamais entendu parler, et qu'on découvre avec vraiment un bonheur, parce que Deville, c'est un conteur, quoi. C'est quelqu'un qui, en quelques lignes, raconte une histoire. Et ce petit livre de, je sais pas, il fait quoi, 250, 280 pages, on a l'impression qu'il en fait 1000, tellement il y a de choses dedans. Et j'ai pas d'action au seuil, mais je pense que c'est vraiment le bouquin de la rentrée littéraire. Moi, en tout cas. Et pour.
Attends,
ouais. Et juste pour vous le signaler, parce que je ne l'ai pas mis dans la bibliographie, encore un auteur de la région, mais mort depuis très longtemps quand même, c'est André Tevé. C'est assez étonnant parce que c'est un bouquin qui date du XVIe siècle. Mais moi, je pensais qu'il était pas réédité. Et je suis tombé dessus vraiment par hasard, parce qu'en fait, moi, je cherchais avec son vrai titre La singularité de la France antarctique. Et en fait, maintenant, les éditions Chandaigne, ils ont changé le titre, ils ont mis Le Brésil d'André Tevé. Donc j'aurais pu chercher très longtemps. Et en fait, c'est un hasard, vraiment par hasard, que je suis tombé dessus.
Oui, parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir cherché...
Et en fait, il est intéressant, André Tevé, d'une part parce que il est d'Angoulême, et que pour la petite histoire, au Brésil, il découvre une plante que les Indiens appellent le pétum. Il la ramène à Angoulême, il la plante, il l'appelle l'angoumoisine, et c'est le tabac. C'est le premier qui... Alors peut-être que ça explique pourquoi cette région Angoulême et puis un peu plus après la Dordogne, etc., il y a tant de champs de tabac. Et en fait, ce qui se passe, 10 ans après qu'il ait ramené son angoumoisine, il y a un mec qui présente à la cour des cigarettes, enfin du tabac, et qui s'appelle Nico. Et c'est lui qui remporte, au grand désespoir de Tevé, c'est lui dont le nom reste dans l'histoire. Quoi. Enfin bref, l'intérêt de Tevé, c'est qu'il fait un voyage au milieu du XVIe siècle. Il part de France, il va en Afrique,
Canaires, les Madari, les Canaries, Madère, et il va au Brésil et il revient en refaisant le tour, les Indes, Madagascar, etc. Et c'est sans doute un des premiers naturalistes. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas du tout scientifique. Donc, il raconte ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il imagine en même temps. Et des fois, ça donne des trucs assez bizarres. Où est-ce que j'ai mis ça? Je vous lis juste un petit passage qui donne le ton un peu de ce qu'on peut trouver dans le livre. Alors, il est en Éthiopie, en 1550, hein, quand même. Ça veut dire que ça fait à peine 50 ans qu'on a découvert les Indes, l'Amérique. Et là, il est en Éthiopie et il dit « Ce pays abonde en miracles. Il nourrit vers l'Inde de très grands animaux comme grands chiens, éléphants, rhinocéros d'admirable grandeur, dragons et autres. » Alors évidemment, les naturalistes, après, ils se sont dit « Non, il est un peu trop farfelu, celui-là. » Mais peut-être qu'à l'époque, en Éthiopie, il y avait des dragons.
Il avait fumé un peu.
Et, oui, il avait déjà découvert le tabac.
Voilà. C'est pas...
Donc voilà, alors l'intérêt quand même, c'est bon, il y a une histoire très controversée autour de ce livre. Je ne développe pas des histoires de plagiat, d'auteurs secondaires, etc. Mais voilà, ça fait partie un peu du folklore. L'intérêt de ce livre qui est publié chez Chandaigne, c'est qu'ils reprennent l'édition de 1557, donc vraiment la première édition, parce qu'en France, il était surtout connu pour l'édition de 1878 qui avait été reprise par un universitaire et plus ou moins édulcorée, etc. Là, c'est vraiment l'édition originale. Des fois, c'est un petit peu lourd parce que c'est de la transcription de l'ancien français, mais au bout d'un moment, on s'y fait, il n'y a pas de problème. La graphie est une graphie moderne, hein. Donc c'est beaucoup plus simple. Et l'intérêt, c'est qu'il raconte plein d'histoires. Alors on ne sait pas trop, hein, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il raconte des scènes de cannibalisme, par exemple. Il raconte des rencontres avec les Amazones. D'où vient le nom du fleuve Amazonie, l'Amazone et par extension de la région l'Amazonie. Voilà, historiquement, c'est à la fois intéressant parce que c'est un des premiers voyages comme ça transatlantiques. Et puis en même temps, il y a tout ce côté anecdotique, un peu onirique, etc., qui donne un ton vraiment particulier à ce type d'ouvrage. En tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on reprend les voyages à partir du XVIe siècle. C'est toujours en général très sérieux, très codifié. Là, ça dénote un peu et c'est tant mieux.
Le dernier, c'est moi qui finis. Oui, j'ai pas résisté à vous présenter cet ouvrage magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il vient pas de sortir, hein, mais ceux qui ne le connaissent pas. Herbes, 70 herbes potagères et sauvages, puis au prix du kilo. Et donc 130 recettes. Par Régis Marcon, qui est donc et Philippe Barré, qui est le photographe, qui est donc un chef étoilé. Et donc dans cet ouvrage, il nous présente les 70 herbes avec lesquelles il travaille en cuisine. Et ce n'est pas qu'un livre de cuisine, c'est aussi un livre pour découvrir ces plantes et les reconnaître. Et donc toute la première partie de l'ouvrage, c'est la présentation de ces plantes avec des photos absolument extraordinaires. C'est un bouquin, il se regarde au fond de son canapé comme un livre d'art. Hein. C'est vraiment magnifique. Les textes sont très précis, très, très très bien pour l'identification, l'utilisation, la cueillette, etc. Et puis après, on passe eh bien, aux recettes. Et puis ben, même qu'on arrive à les faire, les recettes. Hein.
Donc, parce qu'on pourrait imaginer que, bon, c'est bon, dans au fin fond de leur cuisine, ils nous vont nous concocter des recettes impossibles à faire. Eh bien, si, il y a toutes les techniques de préparation et de cuisson pour utiliser ces plantes le mieux possible et en avoir le meilleur en termes d'arômes, etc. Et pour que toutes ces plantes, elles subliment les plats qu'on fait, mais vraiment, les recettes sont très, très belles. Je vais vous le faire voir, hein, parce que moi, je ne peux rien vous raconter, je n'ai rien à vous faire goûter, mais regardez-le, il est magnifique. Je trouve que... Bon, c'est un ouvrage que j'ai toujours en librairie. Je ne sais plus quand... Il est sorti il y a 2 ans, je crois. Ouais, il est pas juste sorti, oui, mais... Oui, il y en a plusieurs dans la collection, oui. Voilà. Donc, il parle de l'oxalis, du coquelicot, du géranium, de l'épicéa, du plantain, du pourpier, de la prime verte, de la sauge, du mouron, de la tanaisie, ça fait inventaire à la Prévert, du nombril de Vénus, de la violette, etc., etc., pour ne citer qu'elle. Nombril de Vénus, vous savez ce que c'est que cette petite plante qui pousse dans les murailles, dans les murs de pierre sèche, hop, qui sort, et puis ça fait comme une petite plante, une petite feuille grasse, creuse, ronde, comme ça, là, hop, comme une petite coupelle. Et c'est bon à manger. Bon, il faut aller les cueillir à les endroits où il n'y a pas trop de voitures qui passent. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment un très, très bel ouvrage. J'ai donné à certaines personnes que j'ai vues tout à l'heure, là-bas, un petit marque-page avec les coordonnées de la librairie, si vous avez envie de me rendre visite. Mais ceux qui n'en ont pas eu, je vous invite à venir en chercher, là. Voilà. Et puis, si vous passez par la rue Édouard Grimaud à Poitiers... Ouais. Eh bien, n'hésitez pas à me faire un coucou. J'ai un petit salon de thé, vous pouvez vous poser. En général, les bibliothécaires, je les accueille, comme tout le monde d'ailleurs, hein, avec grand plaisir et grande attention. Voilà. On boit même un coup, en général. Bon, on n'a pas de vin. Hein, voilà. Mais bon, thé, café, jus de fruits, limonade. Petite bière. Ah oui. Oui, oui. Non, en général, on prend le temps, justement, de regarder. Voilà. Donc, c'est avec plaisir si vous passez par ici. Et bien entendu, je suis libraire, donc je fais tout comme les autres libraires. Mais en mieux. Je suis tranquille, je suis toute seule. Alors
donc, merci à tous les deux. Donc, sur le contenu de la bibliographie, donc, Véronique, pour la partie roman, Bruno, l'aide aussi de Ladia qui a aidé à sélectionner, parce qu'autrement, ça ferait je ne sais pas combien la quantité. Et puis, la remarquable mise en page de Bruno avec le coquelicot, voilà, très très beau. Alors, cette bibliographie, vous la retrouvez en ligne sur le site de Mendès France, ainsi que le document ressources. Voilà, et donc l'enregistrement de tout ce qui s'est passé aujourd'hui également. Voilà, si vous avez encore d'énergie, avec les bonnes tisanes, vous devez être plein d'énergie. Voilà, regardez les ouvrages. J'espère qu'on vous aura donné plein d'idées, que donne plein d'envie de faire des choses en 2020. Et bien sûr, je reste à votre écoute si vous avez des questions, si vous avez... voilà, si vous avez, vous, des informations intéressantes pour en faire profiter les autres, des gens que vous connaissez autour de vous qui travaillent sur le thème des végétaux, je ne sais pas, conteurs, illustrateurs, gens qui font des tisanes, ou voilà, je suis, voilà, pour pouvoir après faire partager l'information, donc ça peut être dans les deux sens. Voilà, bah écoutez, voilà, pour ceux qui sont courageux, il y a les 3 expositions, bon retour, voilà, et en espérant vous retrouver l'an prochain pour les 21 ans. Voilà, à bientôt, bonne fin de journée.